des choses relatives à ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons vu que le Midrash dit que Dieu est appelé Shaddai, Shama Leolamodai, il a mis une limite à sa création. Et ce que le Midrash explique, que les cieux et la terre étaient en expansion constante jusqu'à ce que Dieu dise « stop ». Voilà, et ça des incidences multiples et diverses que nous avons travaillées la semaine dernière, n'est-ce pas ?
C'est possible de relever un peu l'écran, Rav, s'il vous plaît ?
Oui, voilà. Et Emmanuel Vanish, ici présent, nous a fait un résumé.
Ah oui, non, oui, j'ai envoyé à ceux qui ont un email.
Tu nous as fait un résumé de la séance de la semaine dernière. Alors on s'est dit peut-être que M. Langlois pouvait nous exposer un peu, bien que je précise que nos maîtres disent que les paroles de la Torah s'occupent de choses, on pourrait dire, conceptuelles et non physiques. C'est-à-dire que ce dont parlent nos maîtres, c'est au niveau des concepts et pas au niveau d'une réalité physique tangible. C'est-à-dire qu'il y a les lois de la nature et il y a d'autres. Salut Chaim. Il y a les lois de la nature et il y a d'autres choses. Donc ça ne se recoupe pas forcément. Mais bon, sous la proposition d'Isabelle, on a pensé que vous pourriez nous apporter, M. Langlois. Voilà.
Oui, alors je vais donc... Vous m'entendez ? C'est bon ?
Oui, c'est parfait.
Oui, donc je vais essayer de vous donner, en quelques minutes, très rapidement, un bref aperçu sur le point de vue de la cosmologie, du point de vue de la science moderne. Donc, est-ce qu'il est possible de faire un partage d'écran ? Parce que j'ai récupéré quelques transparents que j'avais donnés qui viennent d'un exposé que j'avais donné il y a quelques années, qui peuvent être utiles comme support visuel.
Mais c'est lui qui peut faire. Il faut qu'il clique.
Alors, voilà, c'est bon. C'est bon.
C'est bon, je peux le faire.
Okay. Oui, allez-y. Partage d'écran, là, c'est en bas.
Oui, donc je vais le faire.
Oh là là.
Est-ce que vous voyez ?
Super. Approche-toi.
C'est bon,
vous voyez mon transparent ?
On voit Einstein là.
Vous voyez Einstein, donc c'est bon alors.
On reconnaît. Ah ouais.
Donc le point de départ de la cosmologie moderne, c'est la théorie de la gravitation d'Einstein, qui date de 1915. Et donc l'idée essentielle qu'il faut retenir, c'est que l'espace et le temps sont mêlés et que c'est un élastique, c'est une sorte d'élastique. Donc on peut déformer le temps et l'espace. Donc là, il y a cette image d'un espace-temps qui est élastique. Vous voyez, dès que vous mettez de la masse à un endroit, ça va déformer l'espace-temps. Donc ensuite, un exemple très simple, c'est par exemple, si on se pose la question comment tournent les planètes autour du Soleil. Donc la vision de Newton, c'est de dire qu'il y a une force, la force gravitationnelle, qui fait que la Terre est attirée par le Soleil. Et la vision d'Einstein, c'est qu'en fait, il n'y a aucune force. Mais la présence du Soleil va déformer l'espace-temps, qui est élastique. Et du coup, ça a une sorte de forme d'entonnoir. Et la planète, donc la Terre, par exemple, va tourner dans cet entonnoir autour du Soleil. Donc, il n'y a aucune force. C'est simplement la déformation de l'espace-temps due au Soleil qui crée le mouvement de rotation autour du Soleil. Et donc, en cosmologie, c'est exactement la même idée. Donc, on suppose, pour simplifier, que la répartition de matière est à peu près homogène dans l'univers. Et donc, en fait, c'est la présence de cette matière qui va déformer l'espace-temps. Mais il y a deux façons de déformer l'espace-temps. Puisque c'est l'espace-temps, on peut la déformer spatialement ou la déformer de façon temporelle. Donc, ce qui se passe en cosmologie, c'est que la déformation est temporelle. Ça veut dire que il y a une évolution dans le temps de l'univers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire si vous avez deux objets fixes dans l'univers, donc c'est ces deux points rouges ici, deux galaxies par exemple. Donc, imaginez que ces galaxies sont immobiles dans l'espace-temps. Eh bien, même si elles sont immobiles par rapport à l'espace-temps, elles vont s'écarter l'une de l'autre parce que l'espace-temps, l'espace va se dilater au cours du temps. Donc, c'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Donc, l'expansion de l'univers, c'est même si vous avez deux objets fixes, eh bien, la distance entre ces deux objets va changer au cours du temps.
Et, mais pourquoi ça va changer?
Pourquoi ça va changer? Eh bien, parce que la présence de matière entraîne une déformation de l'espace-temps, et cette déformation apparaît sous la forme de variations temporelles. Donc ici, on suppose que l'univers est homogène, donc en quelque sorte, on fige la répartition spatiale. Donc du coup, la déformation apparaît dans le temps, l'évolution du temps, l'évolution temporelle. Et donc du coup, cette déformation, en fonction du temps, est la même partout dans l'univers. Et donc, il y a ce qu'on appelle un facteur d'échelle. Donc, c'est un peu lorsque vous faites une photocopie, eh ben, vous allez choisir la taille de l'agrandissement. Eh bien, ce facteur d'échelle qu'on appelle A, eh bien, c'est le facteur d'agrandissement qui va dépendre du temps. Donc, au bout de tel temps, vous allez multiplier l'univers, enfin, toutes les distances dans l'univers par 2, ensuite par 10, etc., etc. Donc, c'est ce facteur d'échelle, ce facteur d'agrandissement.
Et ce facteur, il est constant lui-même dans le temps ou…
Non, alors je vais vous montrer après une description. Donc, ce facteur d'échelle n'est pas constant dans le temps. Il va évoluer. Et donc, on a les lois, c'est les lois de la relativité générale qui donnent l'évolution de ce facteur d'échelle en fonction du contenu de matière. Alors, un point important, et je pense que ça va répondre, ou ça va essayer de répondre à une des questions que vous posiez, si j'ai bien compris, c'est que cette répartition homogène, on peut imaginer trois possibilités. Une possibilité, c'est qu'on a un espace infini, un espace euclidien, donc comme la géométrie ordinaire, qui est infini. Donc, c'est l'espace qu'on a naturellement en tête. Mais on a une autre possibilité, deux autres possibilités en fait. L'autre possibilité, c'est que ce soit une sorte de sphère. Donc, imaginez une sphère normale. Donc, si vous avez un espace à deux dimensions, un espace à deux dimensions le plus régulier possible, eh bien, vous avez deux façons de le réaliser. Une façon, c'est d'avoir un plan infini. Et la deuxième façon, c'est d'avoir une sphère. Donc, vous voyez qu'une sphère, elle est une sphère donc totalement lisse, totalement homogène. Eh bien, c'est une manière d'avoir un espace à deux dimensions qui n'a pas de position privilégiée. Donc, oubliez le centre, donc oubliez les trois dimensions. Donc, il faut imaginer la sphère d'un point de vue bidimensionnel. Donc, vous n'avez le droit de vous déplacer que sur la sphère. Eh bien, donc de ce point de vue bidimensionnel, il n'y a pas de point privilégié sur la sphère. Vous voyez que tous les points sont équivalents.
Excusez-moi, mais une sphère bidimensionnelle, ça s'appelle un cercle?
Non, non, non. Donc, bidimensionnel, ça veut dire que la surface de la sphère, c'est une surface, donc elle est à deux dimensions. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on représente une sphère, on la représente dans l'espace. Donc, on la représente à l'intérieur de trois dimensions, en trois dimensions. Mais si on regarde juste la surface de la sphère, cette surface de la sphère est juste…
Elle a deux dimensions.
D'accord. Elle a deux dimensions, d'accord. Donc, l'idée, c'est que si on vit vraiment à deux dimensions, dans cet espace à deux dimensions… Eh bien, si on se déplace sur la sphère, par exemple, si on va toujours tout droit, eh bien, on va revenir à son point de départ. Eh bien, on a une représentation identique à trois dimensions. Donc, on peut construire mathématiquement une sphère à trois dimensions. Donc, une sphère à trois dimensions, ça veut dire que vous allez toujours tout droit dans votre espace et à un moment donné, vous allez retomber à votre point de départ. Donc, c'est l'équivalent de la sphère que nous, on peut imaginer à deux dimensions, mais on peut la représenter mathématiquement à trois dimensions. Donc, quand on construit de la cosmologie aujourd'hui, eh bien, on peut supposer que l'espace correspond à la géométrie euclidienne, la géométrie naturelle qu'on intuite facilement, ou l'espace pourrait être aussi de la géométrie qui est une trois sphères. Donc, dans ce cas-là, on a un espace qui n'a pas de bord, qui n'a pas de limite, mais qui est en même temps un volume fini. Alors que si on a un espace euclidien, c'est un espace qui n'a pas de bord, qui n'a pas de limite, mais qui est infini.
Excusez-moi, vous pouvez répéter, ça ne vous dérange pas.
Donc, si on revient à deux dimensions, on a soit un plan infini. Donc là, vous voyez que la surface est infinie et il n'y a pas de bord, parce qu'on va jusqu'à l'infini. Mais vous pouvez aussi avoir une sphère à deux dimensions. Et la sphère à deux dimensions, elle n'a pas de bord, parce que si vous promenez n'importe où sur la sphère, vous allez toujours pouvoir vous déplacer. Et en même temps, elle a une surface qui est finie.
Oui.
Donc, c'est la même idée à trois dimensions. À trois dimensions, on peut soit avoir un espace euclidien qui n'a pas de bord, qui est infini, ou avoir une sphère tridimensionnelle qui n'a pas de bord, mais qui est finie. Et donc, aujourd'hui, en fait, il y a une troisième possibilité qui est avec une courbure négative, mais c'est encore plus difficile à intuiter, donc je ne vais pas en parler. Donc, ça, c'est un peu ces trois figures que vous voyez là. Donc, c'est des figures à deux dimensions, mais c'est une façon de représenter les trois hypothèses possibles pour décrire l'univers qui nous entoure. Donc, soit un univers euclidien, ça correspond au plan ici, soit un univers sphérique, ça correspond à cette sphère, soit un univers un peu plus compliqué qu'on appelle... hyperbolique.
Le sphérique n'est non euclidien en cela qu'il est fini, tout en n'ayant pas de bord, c'est ça?
Exactement, oui. Ouais.
Mais il est fini par définition.
Il est fini. Voilà. Comme une sphère n'a pas de bord, au sens bidimensionnel, mais est fini.
D'accord.
Donc, alors ce qui est.
Comment est venue cette idée d'un espace non euclidien? C'est théorique, c'est pour un jeu intellectuel ou ça rend compte de réalité?
Donc, au départ, c'est un jeu intellectuel des mathématiciens qui se sont rendus compte que l'axiome d'Euclide qui dit que si on a deux droites parallèles, elles ne vont jamais se croiser, en fait, on peut changer l'axiome et on peut avoir deux droites parallèles qui vont se croiser. Donc, sur une sphère, imaginez des méridiens. Bah, les méridiens, ils sont parallèles si vous êtes sur l'équateur, mais ils vont se croiser au pôle. Donc, en fait, d'un point de vue, une sorte de jeu mathématique a montré qu'on pouvait construire une géométrie qui a un sens et qui ne vérifie pas les axiomes d'Euclide. Et ensuite, en appliquant ces principes géométriques à l'univers, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi extrapoler, utiliser ce même genre de géométrie dans le contexte de l'univers. Et d'un point de vue de la théorie physique, la théorie de la relativité générale ne tranche pas entre quelle est la géométrie spatiale. Donc, ça peut être une géométrie euclidienne ou une géométrie sphérique ou une géométrie hyperbolique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les observations, en principe, peuvent trancher entre les trois hypothèses. Donc, on peut, en principe, savoir, en mesurant la quantité de matière dans l'univers aujourd'hui et la vitesse d'expansion de l'univers, en principe, on est capable de trancher entre les trois hypothèses. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, le plan, donc si on revient à la vision euclidienne, imaginez que vous soyez sur une sphère. Si vous êtes sur une sphère et que vous regardez une toute petite région de la sphère, eh bien approximativement, ça ressemble à un plan.
Oui.
Si vous n'avez accès qu'à cette petite région de la sphère. Et en fait, quand on fait de la cosmologie aujourd'hui, c'est exactement le même problème. On n'a pas accès à tout l'univers, on a accès à une toute petite portion de l'univers autour de nous. Et en faisant les mesures, eh bien, on n'est pas capable de trancher si on est dans une sphère tridimensionnelle ou si on est dans un espace euclidien. Donc, en quelque sorte, les mesures cosmologiques aujourd'hui nous disent qu'on est juste à la limite entre un espace sphérique, un espace hyperbolique ou un espace plan, ou euclidien plutôt, et on ne peut pas trancher entre les trois hypothèses. On est vraiment au bord, c'est juste sur... la valeur critique, on est pile sur la valeur critique entre ces trois hypothèses, donc on ne peut pas trancher.
D'accord.
Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on a accès, d'un point de vue observationnel, on a accès seulement à une portion finie de l'univers, et donc on ne sait pas du tout comment se comporte l'univers au-delà de cette limite accessible par les observations.
Donc il y avait, je ne sais pas, il y a quelques années, c'est le télescope de Hubble. Non, c'était pas ça.
Oui, donc il y a le télescope Hubble qui permet de,
de... qui a apporté des choses intéressantes par rapport à ça.
Alors, il y a un autre, alors je peux vous montrer aussi un peu.
Oui, oui.
Alors, donc là, donc ça, c'était une question qui m'a été posée tout à l'heure sur le facteur d'échelle. Donc ça, c'est l'évolution du facteur d'échelle en fonction du temps. Donc là, 0, ça correspond à aujourd'hui. Ça, c'est le nombre de milliards d'années. Donc ça, c'est le futur et ça, c'est le passé. Par rapport, donc vous voyez que toutes les courbes coïncident aujourd'hui. Et ensuite, on peut extrapoler dans le passé ou dans le futur. Et en fait, les courbes qui permettent d'extrapoler dépendent du contenu de matière de l'univers aujourd'hui. Donc, par exemple, il y a plusieurs composantes dans l'univers. Il y a ce qu'on appelle la composante, la matière ordinaire, qui représente 5% environ du contenu de l'univers. Il y a une matière mystérieuse qu'on appelle la matière noire, qui représente 25%. Et ensuite, on a un autre type de matière encore plus mystérieux qui s'appelle l'énergie sombre et qui représente 70%. Et donc, si on ajuste ces différentes valeurs, si on mesure ces différentes valeurs, eh bien, on a différents scénarios. Donc aujourd'hui, on peut mesurer ces valeurs.
On n'entend pas.
Oui, une petite question.
Oui, il y a une question. Allez-y.
Au sens des trois types de matière, est-ce qu'on considère que la matière en tant que telle, elle est finie en tant que telle ?
Finie dans quel sens ?
Bah, au sens où rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire que finalement, la quantité de matière, elle est
constante.
Par exemple, comme si on disait la quantité d'eau qui existe.
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'en fait, la relativité nous dit, c'est la fameuse équation E égale MC2, qu'on peut transformer de la matière en énergie et vice-versa. Donc, en fait, il y a une partie de la matière aujourd'hui qui, dans le passé, était sous forme d'énergie. Donc, il y a une sorte de transvasement entre les différentes formes de matière. Entre le passé qui était beaucoup plus chaud et aujourd'hui qui est beaucoup plus froid.
Okay.
Mais le point important, c'est qu'on peut mesurer les trois types de matière aujourd'hui et à partir de ces mesures des trois types de matière, on peut extrapoler dans le passé, dans le futur et c'est comme ça qu'on arrive à 13,8 milliards d'années pour l'âge de l'univers à partir du temps zéro, entre guillemets. Donc, c'est en mesurant des valeurs présentes qu'on peut après s'amuser ensuite à faire une extrapolation des équations.
Est-ce que la vitesse d'expansion est corrélée avec la température ? C'est ce que vous avez dit ou pas ?
Donc, la température... Alors, en fait, le facteur d'échelle est corrélé avec la température. Donc, essentiellement, la température va varier de façon inversement proportionnelle au facteur d'échelle. Donc, si l'univers se dilate d'un facteur 10, la température va chuter d'un facteur 10, va être divisée par 10, pardon. D'accord.
Donc, c'est dans ce sens-là ou c'est dans l'autre sens ?
Donc, c'est-à-dire quand le facteur d'échelle augmente avec l'expansion, eh bien, la température va baisser. Ça va être comme l'inverse du facteur d'échelle. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une température de... moins 270 degrés Celsius en moyenne dans l'univers, c'est-à-dire 3 degrés Kelvin, alors que dans le passé de l'univers, c'était énormément plus chaud.
Et quand on se rapprochera d'une température très, 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 très basse, la vitesse va presque. Enfin, l'expansion sera finie, en fait, non ? Ça veut dire ça ?
Alors, en fait, non, parce que. Enfin, en fait, on ne sait pas. Parce qu'une des. Une des matières qu'on mesure aujourd'hui, ça c'était une surprise assez récente, c'est ce qu'on appelle l'énergie sombre ou encore une constante cosmologique. Donc cette constante cosmologique a pour effet de maintenir une vitesse qui sera dans le futur constante, une vitesse d'expansion qui va devenir constante dans le temps. Donc c'est-à-dire que l'univers va continuer à refroidir, va continuer à s'étendre. Si cette matière correspond bien à une constante cosmologique, et ça, on n'est pas sûr. Aujourd'hui, ça a l'air de se comporter comme une constante cosmologique, mais on n'est pas sûr de ce que c'est vraiment. Et si c'est vraiment une constante cosmologique, eh bien, l'univers va s'étendre de plus en plus, de façon exponentielle, et va atteindre une sorte de vitesse d'expansion qui est une vitesse d'expansion critique qui a une valeur constante.
Et j'ai une dernière question. La première hypothèse où l'univers est une sphère, donc ouais. C'est donc une surface finie, mais dans une expansion infinie. Donc finalement.
Exactement. Donc on pourrait imaginer, il y a l'image par exemple d'un ballon qu'on est en train de gonfler.
Ouais.
Donc on souffle dans un ballon, donc le ballon à chaque instant est fini, la surface est finie. Et si on souffle indéfiniment, le ballon va gonfler de plus en plus.
Jusqu'à ce qu'il explose.
Et excusez-moi, j'ai une question. Vous avez dit que la présence de la matière a pour conséquence une déformation de l'espace, mais aussi une déformation du temps. C'est un corollaire.
Non, c'est pas nécessaire. C'est-à-dire que la déformation de l'espace-temps peut se manifester de deux façons. Donc, quand j'ai donné l'exemple, par exemple, du celui-ci. Donc là, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Là, l'espace, en fait, donc cette déformation d'espace-temps ne va pas changer dans le temps.
D'accord. Là,
on a une déformation qui est purement spatiale et pas temporelle.
Et quels sont les critères
Alors qu'au contraire, dans la cosmologie, on a une déformation temporelle, mais pas spatiale, en quelque sorte. Et après, alors tout dépend des conditions initiales, en quelque sorte. Donc ça, c'est deux solutions différentes des équations de la relativité générale. Donc après, on peut s'amuser à avoir des solutions qui mélangent variations spatiales et variations temporelles.
Sur la déformation de l'espace-temps, quand on a la vision en entonnoir, on a l'impression que c'est le bas du corps qui appuie sur l'espace-temps.
Non, c'est... Alors, c'est toujours le problème des analogies qui ont leurs limitations. Donc là, évidemment, on est obligé de représenter la déformation par rapport à quelque chose qui a deux dimensions. Mais dans la réalité, l'espace est à trois dimensions. Donc, il faut imaginer une déformation. On ne peut pas la représenter mentalement, mais ça correspond à une déformation de l'espace. Et donc, on peut
c'est
pas.
C'est comme si elle tombait de manière infinie vers la Terre, c'est ça? Enfin, ou vers le Soleil, là, si c'est la Terre qui tourne. C'est ça ou...
ah. Et si... Donc, si la Terre, par exemple, si la Terre n'avait pas de mouvement latéral, c'est-à-dire si vous mettez, vous posez un objet au bord de l'entonnoir, eh bien, donc cet objet va tomber vers le Soleil. Donc, il faut imaginer que le Soleil, en fait, est au centre de l'entonnoir. Donc là. Là, ça fait un peu bizarre parce qu'on a l'impression que c'est le bas du Soleil qui est au bas de l'entonnoir, mais c'est juste la limitation de la représentation. Et sinon, alors pour répondre à la question sur le satellite, donc il y a un satellite qui a vraiment joué un rôle crucial, qui a permis de. Alors il y a plusieurs satellites, mais il y en a un qui a donné une sorte de photo de l'univers dans son enfance. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le satellite Planck. Donc c'est un satellite européen. Donc ça, c'est la représentation de la sphère céleste. Donc c'est un peu comme le même problème. C'est une projection, hein, comme on représente le globe terrestre sur une map monde. Donc ça, c'est ce qu'on voit du ciel. Mais c'est la température du ciel sous forme de micro-ondes. Et donc, c'est une température qui est de l'ordre de 3 degrés. Donc, ça correspond à la température dont je vous parlais tout à l'heure, qui correspond à la température moyenne de l'univers aujourd'hui. Et en fait,
c'est une constante ou c'est une moyenne?
Donc, c'est une moyenne. Alors, ce que vous voyez en fait ici, ce sont les petites fluctuations par rapport à cette moyenne. Donc, en fait, on a un univers. Alors, je ne sais pas si je l'ai représenté ici. Donc ici. Donc là, voilà. Donc ça, c'est la moyenne. Donc en première approximation, on voit une radiation qui a la même température. Et lorsqu'on va raffiner les détails, on s'aperçoit qu'il y a des petites variations de cette température. Alors, il y a une variation qui est due au mouvement, notre mouvement par rapport à l'univers, en quelque sorte. On n'est pas immobile par rapport à l'univers. Donc on a ce qu'on appelle un effet Doppler, c'est-à-dire qu'on a le fait qu'on est en train de se déplacer par rapport à l'univers. Et ensuite, lorsqu'on va un peu plus loin, eh bien, on voit ces fluctuations qui sont de l'ordre de 1 cent millième. Donc, c'est des fluctuations extrêmement petites. Et donc, la théorie cosmologiste actuelle dit que ce sont à partir de ces petites fluctuations, donc ces minuscules rides de l'univers lorsqu'il était extrêmement jeune, qui par accumulation va donner toutes les structures qu'on voit dans l'univers. Donc les galaxies, les étoiles, etc. Viennent de ces petites fluctuations minuscules qui vont être amplifiées au cours du temps.
Non, c'est... Nous, on est là en train de dire à Geiger. C'est un peu limité, quoi. Non, mais c'est vrai.
Et tu n'as pas répondu sur Hubble.
Ah oui, alors Hubble, donc non, enfin Hubble permet, alors je ne sais pas si j'ai une représentation d'Hubble, permet de voir des galaxies très très lointaines. Donc là, par exemple, on peut accéder. Donc ça, c'est une image de Hubble ici.
Oui.
Donc là, on peut accéder à des galaxies qui sont extrêmement lointaines. Donc en fait, on peut essayer de voir de façon très précise tout ce qui est présent dans cette bulle qui nous entoure.
Et quand on parle d'une galaxie, c'est-à-dire la Voie lactée, c'est une galaxie.
La Voie lactée, c'est une galaxie où nous sommes, exactement.
Où nous sommes, donc c'est incommensurable.
Oui, donc là, il y a des... Alors, je ne sais pas combien il y a de galaxies dans la zone de l'univers qui est accessible, mais il y a un nombre immense, très très grand.
Mais c'est fini, pas mal quand même.
Mais fini, donc la zone qui est accessible est finie. Ça, c'est un point important.
Ah oui. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
C'est-à-dire que le volume qui nous est accessible est fini. Même si l'univers est infini, il est possible que l'univers, enfin, en tout cas, la théorie ne peut pas trancher est-ce que l'univers est fini ou infini, mais la zone qui nous est accessible par les observations est finie.
Est fini, d'accord.
Est fini pour la raison suivante, c'est que la vitesse de la lumière est finie et que l'univers n'a pas un moment de naissance, parce qu'en fait, on ne peut pas remonter à la naissance de l'univers. Ce qu'on voit, c'est simplement l'univers à partir du moment où il est devenu transparent. Donc, dans le passé, l'univers était opaque, n'était pas transparent. Et donc, ce qui est accessible, c'est l'univers, la zone de l'univers qui nous entoure depuis le moment où l'univers est devenu transparent.
Et comme la vitesse... Il y a de la lumière. Donc, transparent, c'est autre chose que la lumière.
Alors, transparent, ça veut dire que la lumière peut traverser sans rencontrer l'obstacle de la matière.
Ah, d'accord, d'accord.
Donc, il y a à la fois lumière et matière, mais s'il y a suffisamment peu de matière, eh bien, la lumière... L'essentiel de la lumière peut traverser l'univers sans être bloqué par la matière. C'est à ce moment-là qu'il devient transparent.
Un moment, il n'y avait pas... C'était trop opaque pour qu'il y ait de la lumière.
Exactement. Au départ, c'était trop opaque pour qu'il y ait de la lumière. Ouais. Donc, ça veut dire que la lumière est en permanence en train de rebondir sur les particules de matière.
D'accord.
Et ça, c'est quand l'univers était trop chaud, au début.
Quand on dit qu'il y a une lumière primordiale qui permet de voir d'un bout du monde à l'autre, c'est pas antithétique. C'est-à-dire que c'est à la limite, c'est pas la lumière qui change, c'est la densité de matière qui pourrait changer.
D'accord, on vous écoute là, oui.
Voilà, j'ai fini. Si vous avez d'autres questions.
Alors, oui, en parlant avec votre épouse, elle avait dit que vous nous exposeriez le débat. Pour des ignares comme nous, entre Einstein et Bohr.
Ah, donc sur le. Donc la mécanique quantique. Donc on change de sujet là.
Oui.
Donc, alors.
C'est pas trop abusé.
Bon, c'est 15 ans.
Non, je vais essayer.
En 10 minutes aussi.
Donc le cœur du débat, c'est la nature de la mécanique quantique, de la physique quantique.
Excusez-moi, je rajoute un point. Oui. Il y a 250 ans, il y avait quelqu'un qu'on appelle le Gaon de Vilna, donc qui était Vilna comme son nom l'indique.
Ouais.
Il a demandé à un de ses élèves de traduire du grec en hébreu les principes d'Euclide, parce qu'il pensait que l'étude des principes d'Euclide est consubstantielle à l'étude du Talmud. Mm-hmm. Donc, ce que nous faisons là est, classique dans l'étude talmudique. Voilà.
Ok.
Voilà, je ferme la parenthèse.
Ceci dit, pour rebondir sur ce que vous avez dit au début, je pense que... c'est important de bien tracer la limite entre science et religion. Donc, comme vous l'avez dit au début, les deux interviennent ou envisagent les choses dans des plans complètement différents.
Absolument.
Quand on est s'inspirer de, en effet d'idées qui viennent d'ailleurs, mais je pense que c'est important d'avoir cette idée que les questions, les façons de raisonner ne sont pas du tout les mêmes dans les deux cas.
D'accord. Okay.
Donc pour la mécanique quantique, donc l'idée de la discussion entre Bohr et Einstein, ça concerne la nature de la mécanique quantique. Donc à savoir, est-ce que l'incertitude concernant la mécanique quantique est intrinsèque à la mécanique quantique, ou c'est simplement le fait de notre impossibilité d'accéder au réel complet. Donc Einstein pensait, donc c'est sa phrase célèbre, « Dieu ne joue pas au dé », pensait que même si on ne peut pas, nous, en tant qu'observateurs, accéder à la réalité intrinsèque des particules, eh bien elle existe dans la réalité. Alors que Bohr disait « Non, en mécanique quantique, eh bien, il y a une incertitude qui est intrinsèque et on peut pas décrire des particules avec des variables qu'on appelle cachées, qui nous seraient inaccessibles mais qui existent réellement. Donc ce débat a donné lieu à ce qu'on appelle le paradoxe EPR, c'est Einstein-Podolsky-Rosen. Donc Einstein a essayé de donner de façon très précise ses arguments, et donc l'idée est la suivante. L'idée, c'est qu'on peut fabriquer des paires de particules qui sont complètement couplées entre elles. Donc ça peut être par exemple deux photons. On prend deux particules de lumière, deux photons, et on peut les coupler de telle façon que si l'un a telle propriété, ce qu'on appelle la polarisation, eh bien l'autre va avoir la propriété opposée. Donc appelons la propriété plus et moins. Donc si le premier photon est plus, alors automatiquement le deuxième photon va être moins. Si le premier photon est moins, alors automatiquement le deuxième photon va être plus. D'accord ? Ils sont toujours en opposition. Alors la mécanique quantique nous dit que lorsqu'on va créer, on peut fabriquer un système dans lequel on a superposition de plus-moins et de moins-plus. C'est-à-dire automatiquement les deux particules sont opposées, mais la première peut être plus ou peut être moins, et la deuxième peut être moins ou plus. Donc Einstein disait, si on fabrique un tel système, en fait, nous, on ne sait pas si c'est plus-moins ou si c'est moins-plus, mais dans la réalité, c'est forcément plus-moins, soit moins-plus. Simplement, on n'a pas accès à cette information. Bohr disait non, pas du tout. Dans la réalité, on a vraiment une superposition entre ces deux possibilités. Et donc, pendant longtemps, c'est resté un débat philosophique, jusqu'à ce qu'un physicien qui s'appelle Bell s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait quantifier, on pouvait trancher d'un point de vue statistique entre les deux hypothèses. Donc, ça donne, il a écrit ce qu'on appelle les inégalités de Bell. Et ces inégalités de Bell permettent de trancher entre la vision d'Einstein ou la vision de Bohr. Et ensuite, il y a eu des expériences un peu plus tard, parce que c'est des expériences extrêmement subtiles, extrêmement compliquées. Et l'une des plus célèbres, a été faite par un physicien français qui s'appelle Alain Aspect. Et ces expériences ont tranché en faveur de Bohr, disant qu'en effet, au départ, on a superposition intrinsèque des deux états, plus, moins et moins, plus. Et c'est une fois qu'on va mesurer l'un des photons, même très très loin, que l'autre photon va se décider. C'est-à-dire donc les deux photons vont se séparer, ils vont être très éloignés l'un de l'autre, et si on mesure le premier photon, on trouve plus, alors à ce moment-là, instantanément, le deuxième photon devient moins. Mais tant qu'on ne l'a pas mesuré, Les deux sont dans un état plus-moins. C'est seulement lorsqu'on mesure le premier photon et qu'il se décide, entre guillemets, à devenir plus ou à devenir moins, que l'état du deuxième photon est décidé au même moment. Voilà. Donc, ça, c'est le point de vue de Bohr qui a été vérifié par l'expérience.
Sans qu'il puisse se parler, en fait. Sans qu'il puisse, ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont éloignés, ils ne peuvent pas communiquer. C'est-à-dire qu'ils se décident indépendamment. Donc,
ils sont très éloignés. Donc, du coup, on sait qu'on ne peut pas avoir transmission d'informations parce qu'il faudrait une vitesse qui serait supérieure à la vitesse de la lumière. Donc, c'est ça le point important. Donc, ça viole apparemment la causalité relativiste. Ça ne la viole pas parce qu'on ne peut pas transmettre d'informations en utilisant ce mécanisme. Mais l'idée, c'est qu'il y a impossibilité d'avoir une transmission effective du premier photon au deuxième photon.
De causalité. Et cette expérience était à quelle époque ?
Donc ça, c'était dans les années, celle de Alain Aspen, donc la dernière, je pense, c'était dans les années 1980.
D'accord, ok. Donc il n'y a plus de débat aujourd'hui, alors ?
Non, sur ce point, il n'y a plus de débat, en effet. Oh
là là. Mais comment on comprend alors, parce que ça a l'air d'être lié, mais peut-être c'est moi qui dis des bêtises, mais avec les particules imbriquées, il y a aussi une sorte de transmission d'informations.
Oui, c'est exactement, c'est la même idée, c'est ce qu'on appelle l'imbrication quantique, c'est exactement le même phénomène, tout à fait.
Mais comment on conceptualise, parce qu'il y a bien une sorte de transmission ou de communication qui se passe, d'informations, mais par un autre biais peut-être ou...
L'idée c'est qu'en fait on a un système, même si le système est étendu, c'est un système qui est déterminé par une seule entité. Donc même si les deux photons sont très éloignés, ils sont décrits par ce qu'on appelle une fonction d'onde en physique quantique qui les englobe en même temps tous les deux.
D'accord. Donc c'est vraiment comme si c'était deux expressions différentes d'une même chose et que modifier la source.
Donc ça veut dire qu'on a une description global de ces deux objets, même si les deux objets sont extrêmement éloignés.
Et c'est deux objets en particulier ou ça vaut pour chaque particule de l'univers entre elles ?
Alors, en principe, c'est là où les choses se compliquent dans le sens où moi personnellement, je pense que, beaucoup de physiciens vous diront que la mécanique quantique, on n'a pas compris ce que c'était, dans le sens où en mécanique quantique, on est obligé de faire une séparation un peu artificielle entre le système physique étudié et l'observateur. Donc, on a un mode de description qui permet de décrire le système et puis on a une autre façon d'appréhender l'observation.
Sinon, il y a une interaction entre les deux qui modifie les variables.
Exactement. Donc, l'observateur, en observant, va modifier le système. Et donc, il y a une sorte de dualité entre système étudié et observateur qui est gênante parce que du coup, on crée une barrière artificielle entre les deux. Si on voulait décrire l'univers de façon quantique, il faudrait que tout le monde ait à la fois observateur et acteur de l'univers. Et ça, évidemment, on ne sait pas le faire.
Qu'est-ce que ça veut dire, les ordinateurs quantiques ?
Donc, les ordinateurs quantiques, ça utilise justement cette même idée, en fait. Donc, au lieu d'avoir des photons qui sont imbriqués, c'est-à-dire qui sont comme les deux photons dont j'ai parlé, eh bien on peut prendre ça peut être des photons, ça peut être d'autres particules qui vont être imbriquées. Et donc, au lieu d'avoir les 0-1, donc on a les 0-1 qui sont utilisés dans le calcul des ordinateurs, hein, c'est en binaire, donc c'est des 0 et des 1, eh bien on pourrait imaginer d'avoir des superpositions d'états. Par exemple, un état 0,1 superposé avec un état 1,0. Et faire des opérations mathématiques avec ces superpositions d'états. Et du coup, certaines opérations deviennent énormément plus rapides à faire en utilisant le calcul sur ces superpositions quantiques d'états. Donc c'est ça l'idée de l'ordinateur quantique, c'est de manipuler des systèmes qui sont... imbriqués ou intriqués de telle façon que les calculs, certains calculs qui prendraient un temps énorme, plus gros, eh bien deviennent beaucoup plus faciles. Alors la grosse difficulté d'un point de vue technologique, c'est de maintenir des systèmes sous cette forme intriquée, c'est-à-dire complètement imbriquée. En général, les systèmes vont avoir tendance à se séparer naturellement, parce que dès qu'ils interagissent avec d'autres...
Ça se stabilise, quoi.
Oui, ça se stabilise en se séparant, en quelque sorte. Donc, les deux photons vont avoir tendance à se séparer naturellement parce qu'ils interagissent avec d'autres objets autour d'eux.
D'accord. OK. Bon, alors, je vous remercie. Très bien.
Bon, voilà.
Alors, maintenant, on va à notre fabricant du golem, là. On va faire notre Maharal de Prague. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bien.
Merci.
Au revoir, merci beaucoup.
Merci.
Alors, c'est bon. Ok. Alors, regardez, on va vous faire les chaïm virtuels. Mais pour nous, ça ne sera pas virtuel, je peux vous dire.
C'est une bouteille vide et pleine superposée en même temps.
Allez. Non, mais là, elle est en température constante. Ok, alors on y va. Regardez, on prend le chumash. Je vous passe le chumash. Dans la page Kouf Yutret de l'édition classique du Gvurot Hashem, on passe à la deuxième colonne. La reine, je vais relire le verset. Verset Vav de Parashat Va'era. La reine est mort, les Bnei Israël. Donc, chapitre Vav, verset Vav. La reine est mort, les Bnei Israël, Ani Hashem. C'est pour ça, parle aux enfants d'Israël. Je suis l'Éternel, je vous sortirai dessous les labeurs de l'Égypte, je vous sauverai de leurs travaux, je vous délivrerai avec un bras étendu et des grands jugements. Je vous prendrai pour moi comme peuple. Je serai pour vous comme Dieu. Vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous fait sortir de sous les labeurs de l'Égypte, cher monsieur. Je vous amènerai dans la terre que j'ai juré de la donner à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Venatati ota lachem moracha ani Hashem. Je vous la donnerai en héritage. Je suis Hashem. Voilà. Chapitre Vav. Merci. Bien. Fort de ça, nous prenons maintenant le texte du Maharal. Lachem. Elou arba le shonot shegeula. Ce sont ce qu'on appelle les quatre langages de délivrance, de la délivrance. Votseti vetsalti mavodatam vegalti etrem velakarti etrem lilea. Ok, les gars, Elou arba le shonot. Tiknu rabotenu zichonam libracha arba kosot. Et par rapport à ces quatre langages, nos maîtres ont institué les quatre verres de vin le soir du seder. Veyesh le farech pirush elut dalet varim keneged ma shamar. On peut expliquer que ces quatre langages correspondent aux quatre éléments de la prophétie que Abraham avait eue dans Brit Ben Aptarim, ces quatre prophéties qui ont été étudiées en long, en large, en travers, plus haut, n'est-ce pas? Alors, Mashama, Yadoat Teda, Kiger Yezaracha, Vavadum, Venuotam, Vachareken yetsu birchush gadol. Ce qu'on voit, savoir, tu sauras qu'étrangère sera ta descendance dans un peuple étranger, ils asserviront les fronts souffrir et ils sortiront avec des grandes richesses. Biurze, explication. Alors, on a vu plus haut, hein, on a vu plus haut un passage central que pour trois raisons, la descendance d'Abraham a été en Égypte. Trois raisons. Première raison, il y a une raison, c'est que quelque part il a manqué de confiance quand il a dit « Bamé Eda Kirachena, comment saurais-je que je prends départ de la terre ?» Ça c'est un. Deuxièmement, il a enrôlé ses élèves pour aller sauver Lot, ce qui n'était pas légitime, que lui aille sauver Lot, d'accord. Mais ses élèves qui étudiaient la Torah, alors qu'est-ce que ça veut dire à l'époque d'Abraham étudier la Torah? Bon, ok, d'accord. Comment? D'accord. Et troisième chose, c'est que quand le roi de Sodome a dit « Rends-moi les hommes et garde la richesse », Abraham a dit « Prends les hommes et prends aussi la richesse, qu'on ne dise pas que tu as enrichi Abraham ». Or là, il s'est refusé de faire rentrer les sodomites sous la protection, les ailes de la protection de Dieu.
Il aurait dû laisser les richesses et prendre
les hommes. Non, ça, les richesses, oui ou non, mais les hommes les gardaient en esclavage. Hein, donc ça, on a vu, et le Maharal là-bas avait expliqué que ces trois choses correspondaient à trois dimensions, à l'esclavage, aux souffrances et à l'exil. Alors, ok. Et là, maintenant, il va analyser de nouveau ces trois choses. Biurze, explication. Kayash, Toshad, Varim, il y avait trois choses. Trila, Gerut. Première chose, le fait d'être étranger. Afalgab, Shenu, Meshuabad, Leacher, Mitzal, Shu, Ger, Elo, Koar, Kemo, Toshav. Le fils, Shu, Bershut, Acherim. Première chose, le fait d'être immigré. Ça, c'est quelque chose de très, très important, le fait d'être immigré. Je me resserre parce que c'est très bon. Voilà. Dans une forme de procès, les règles de...
Ah bah, Christophe, on est dans le sujet, donc...
On commence par trois, puis par quatre.
Alors, tout ça pour dire que le fait d'être immigré... Vous voyez, par exemple, je ne sais pas, vous connaissez des gens qui font leur alia, vous avez déjà entendu parler? Cette secte...
Oui, mais ils disent tous que c'est génial.
Apparemment,
c'est le pipeau.
Attends,
ça commence maintenant à venir des rumeurs que c'est pas ça.
Peu importe. Si vous voulez, c'est pas le cœur du sujet. Ce que je veux dire seulement, c'est que partir d'un pays et aller dans un autre pays, alors si tu vas deux semaines, trois semaines en vacances, c'est une chose. Mais aller habiter dans un autre contexte, c'est une émigration. L'émigration, c'est une souffrance. Même si on est émigré avec de l'argent, peu importe. Mais l'émigration, c'est une souffrance. Tu n'as pas tes repères, le climat, la langue, les codes. Et ça, c'est le premier élément de souffrance, c'est le guerre. Guerre yézaracha. Il dit, c'est pas l'asservissement, mais il n'a pas la force comme l'indigène, parce que il est soumis aux autres. Si tu veux, il arrive, il va dans une administration, il sait même pas comment ça se passe. Vacharkar, aussi faleem chez Aboud. Maintenant, deuxième catégorie, l'asservissement, kederer chez Meshabim, chez Meabdim à Eved. Comme on a servi un esclave. Alors, l'esclave est acquis à quelqu'un d'autre. Donc là, c'est complètement une dépossession. Donc ici, il y a une dimension dans le fait d'être immigré, il y a une dépossession de ses repères. Mais c'est encore quelque part autonome, mais c'est une perte de repères. Maintenant, deuxième chose, c'est l'esclavage. L'esclavage, ça, c'est une désappropriation complète de son être, puisque tu es soumis à quelqu'un d'autre. C'est une dépossession de son être. Voilà. Aussi, Falem Shabud, qui est derrière chez Meshab. Troisième. Vararkar aussi fallait maïnoui. Maintenant, l'inouï, c'est la persécution. Chez Ounoui, yoter mema chez Char Eved, chez Meshouabad. Est-ce que tu peux amener esclave? L'esclave est désapproprié de sa liberté, de son autonomie. Mais la souffrance, la persécution, c'est une troisième catégorie. Que va Ilbaer Zelemala Gamken Be Parashat Brit Ben Abtarim. Ça a été analysé plus haut. Et Kacher Baligol Otam. Donc, quand Dieu vient les sauver, les délivrer. Itril Barachon. Premièrement, il commence par arrêter la persécution. Chez Wakasha. Omimeno Otsiam Techila. Il les a fait sortir de ces persécutions. Je vous ai fait sortir de sous les souffrances.
Ah, donc en fait, quand Yotziti, c'est vrai, on répète ça comme ça, c'est pas sortir d'Égypte, c'est sortir de la souffrance. À la limite, voilà. Ils sont encore en Égypte, ils sont même encore esclaves, mais ils n'ont plus les coups de fouet.
Voilà.
Bien qu'au tout début, c'est un bon choix pour le.
C'est dans l'autre sens inverse. Après, au début.
Non, mais même au tout début de l'intervention de Moshe, il y a la première fois où ils vont voir Paro et où on renforce la
difficulté. Oui, mais là on parle, d'accord, mais ça c'est les prémices.
Oui, mais c'est le début de l'intervention quand il y a déjà eu le
oui, quand on dit les Otseti, c'est quand après, pendant les
temps. Alors là, plus fumé, j'ai rien compris.
Je veux dire, avant les diplés, il y a Moshe qui vient avec Aaron voir Paro une première fois pour lui dire.
C'était pire, d'accord.
Voilà, et là, donc le tout début a renforcé.
Non, mais d'accord, mais là, on est après ça. Ça c'est la fin de Parashat Shemot. Maintenant, on débute de Vaïra.
Donc là, quand on parle de la sortie, c'est à partir des diplés.
Je ne sais pas des diplés. Maintenant, il dit opération sortie d'Égypte. Là, maintenant.
Voilà comment ça va se passer.
Voilà. Et ben, là, effectivement, la persécution a été plus forte. Oui. Okay. Mais maintenant, il parle aux enfants d'Israël en leur disant voilà, maintenant, il va y avoir les quatre étapes.
Oui, mais parce que pour que ce soit porteur d'enseignement.
Ça n'a aucun sens.
Il y a fait, tout ça, c'est pour que 3000 ans plus tard, tu dois
poses des questions.
Time, tu étudies le truc. Non, il y a un plan précis. Moi, je ressens ça.
C'est pour que tu poses cette question.
Non, c'est je ressens, c'est pas. C'est très précis, c'est pensé.
Que dire? Ok, monsieur, merci pour votre.
regarde
ta question. Ouais, c'est une bonne question. Mais c'est quelque chose de très important, mais on a déjà des éléments. Souvenez-vous, et justement par rapport à la remarque d'Antoine, on a travaillé plus haut dans le chapitre précédent que de la délivrance, c'est comme un chevreuil dans la forêt. C'est-à-dire que. C'était pas là?
C'est
pas là? C'est comme un chevreuil.
Si tu rates quelque chose,
regardez. Vous voyez, le présentiel, mes amis, le présentiel et la vidéoconférence. On peut constater ça.
Parce que là, là,
c'est vrai, là, ça
c'est pas ce qu'il dit de Dodi. Mon bien-aimé ressemble au chameau.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il y a quelque chose de très qu'on a travaillé et quelque chose qui est extrêmement important. C'est que il va y avoir, on va devenir le peuple d'Akadoshbourg. Or, on est dans la réalité qui s'appelle France Info. Et tout devient plus clair. Voilà. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire par là? On est dans un monde de réalité tangible. Tu vois, par exemple, là, je sais pas, hier, j'ai pas écouté notre cher président. Aujourd'hui, j'ai écouté France Info. Okay, France Info, alors il dit voilà, il va y avoir des confinements, les écoles c'est comme ça, mais c'est pas un mètre, avant c'était 4 mètres carrés, maintenant c'est un mètre. Alors, ok, donc ça veut dire.
Vous ne savez pas combien d'énarques il faut pour penser à des trucs pareils. Non. Non, c'est vrai, c'est intéressant. Ils se sont mis à combien quoi, pour réfléchir
à tout pareil. Bon, ça, non, mais c'est très.
Imagine à la cour d'école à Betrada. Attends, Mendel, il faut un mètre latéral avec Yosef Yitzhak. Attends.
Alors, non, tout ça pour
dire. T'imagines même pas le truc.
Tout ça pour dire qu'on est dans un monde de réalité, un monde tangible, un monde, tu vois, par exemple, je ne sais pas moi, il y a la déclaration des impôts. Je n'ai pas la déclaration des impôts. C'est dommage pour toi. Je veux dire, l'affaire, c'est dommage. Ne pas la faire, c'est dommage.
Mais là, ils sont plus de gens cette année, ils vont être.
Non, d'accord, ça veut dire.
C'est
donc, peu importe, tu as les allocs, tu as les APL ou tu n'as pas les APL, il faut remplir ton truc, surtout maintenant que c'est informatisé, tu le remplis de travers, ça ne va pas marcher. Or, Akadosh-Baruch Hu va faire que les Hébreux vont devenir son peuple. Ce monde ne peut pas subir une transformation. Ou alors, si tu veux, ça peut être, tu vois, par exemple, tu as Bouddha. Non, mais c'est, moi, ce que j'entends, tu as Bouddha. C'est quoi Bouddha? Bouddha, c'était un Maharaja. Il avait 50 femmes, 40 concubines, 50 éléphants, 40 palais en or, et Vyayanara. Et sous un banyan, boum, il a eu l'éclairage, la révélation que ce monde est une illusion. Il a enlevé ses chaussures, il a enlevé ses habits d'or, il a pris son t-shirt, il est parti sur les routes, il a dit au revoir à ses femmes, au revoir à ses enfants, il a fait vœu de pauvreté, vœu de chasteté. Il y a une seule chose dans la vie, c'est la recherche de la vérité. Ça, c'est bien. Mais ça, c'est un individu. Maintenant, à Akadosh-Baruch Hu, ce qu'il a voulu avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est que ce soit un peuple qui vive la volonté de Dieu. Ça, c'est plus compliqué. C'est très, très compliqué.
Non, mais
parce Bouddha, que c'est dans la réalité de ce monde. Oui, bonjour.
Bonsoir. Non, mais oui. La vie du Gaon de Vilna, c'est exactement la même approche que Bouddha. C'est des gens qui vivent dans une totalité de spiritualité, et qui sont des référents pour guider des gens comme moi dans ma vie quotidienne. Mais Bouddha, il a exactement la même approche qu'un Gaon ou qu'un Maimonide, c'est-à-dire qu'il a une approche complètement totale de la chose, et il va nous délivrer un guide qui va nous permettre de
c'est pas mal, c'est bon, c'est une bonne question. Oui.
Quand j'entends Bouddha et Gaon de Vilna, c'est
je pense qu'il n'y a que dans les cours des schémas des étudiants pour te poser une question comme ça. Finalement, quelle est la différence entre Bouddha et Gaon de Vilna? C'est très très bien.
Ça fait quand même plus de 20 ans que je connais le rap. J'ai même retrouvé une photo de lui où il avait la barbe presque noire. Ah. Noir, non? Oui. Mais et... même moi, je suis presque choqué là.
Et alors, et alors?
Non, mais même moi, je suis presque choqué et déstabilisé par la question d'Arnaud, c'est pour dire.
Oui.
Quelle est la différence entre Bouddha et le Gan de Village?
Quelle est la différence entre Bouddha et le Gan de Village? Là, Rémi.
La barbe. La grande proximité.
Non, mais je n'ai pas dit qu'il y a une différence. C'est qu'ils ont une même démarche, non enfin,
je crois pas. Hein. Il y a un bidon de bien bon comme ça dans les boutiques chinoises.
Il n'est pas barbu. Ah, le gars. Là, mais... Alors, regarde. Regarde. J'ai posé la question à mon maître Ravabidbol il y a 44 ans, cette question. La même question. Cette question exacte. Et sa réponse a été la suivante. C'est que tous ces maîtres vivaient mariés. Tous nos maîtres vivent mariés. Et d'autre part, le Gan de Vinna, son œuvre principale, et c'est exactement la même chose, son œuvre principale, c'est son commentaire sur le Shulchan Aruch, qui est savoir comment je me lave les mains le matin, comment j'enlève le Hametz à Pessah, et comment c'est mouxé le jour du Shabbat, et comment je fais pour faire du café à Shabbat, ou avant Shabbat, ou etc. L'escafé, etc. Donc, la halakha est une réalité.
Dans la réalité.
En vérité, la halakha, je te donne un exemple.
Ma fille, mariée
à Jérusalem, elle m'a appelé tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle a une question. Elle a cuit ses pommes de terre dans une casserole viande et elle a coupé les pommes de terre chaudes avec des couverts lait. Alors, qu'est-ce qu'elle fait des pommes de terre?
Il n'y avait que les Barichouba qui posaient des questions pareilles.
Alors, c'est la jeune mariée. Ça fait 2 mois qu'elle est mariée. Elle n'avait jamais l'occasion de se poser des questions comme ça. Alors, si tu veux, non, c'est dans l'autre sens. Non, c'est un test psychomoteur. Un test psychomoteur. Ok. Alors, et donc ça veut dire que le Gaon de Vilna, qui lui avait des garçons et des filles, eh bien, il fallait qu'il ait un langage commun avec ses garçons et ses filles quelque part. Ce langage commun, c'est le langage de la halakha. Savoir comment ça se concrétise dans des choses très simples de l'existence et pas des choses métaphysiques. Même si derrière ça, il y a la métaphysique. Alors, si on étudie ça, c'est que on a aussi la Emouna, qui va y avoir la Geoula, Shlema, la délivrance finale. Et dans cette délivrance aussi, elle est dans la réalité des choses. Or, la réalité des choses, le Mara nous a aidé à partir de ce Midrash, de voir que parfois, il y a des reflets de délivrance. Mais ces reflets de délivrance, pour qu'ils se concrétisent, j'ai pris un exemple dans les cours précédents, lorsqu'il y a eu le début du confinement. Ouais, le début du confinement. Okay. Moi, j'ai senti qu'il y a un reflet d'une remise en question internationale qui après est rentré, si tu veux, dans les lois du monde. Maintenant, le confinement, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, je mets le masque ou pas le masque, etc. Est-ce qu'on prend j'ai remarqué ce soir, personne d'entre vous, vous avez pris. T'as fait de l'alcool, là? Ouais.
Okay. J'avais les mains au savon. Moi, je l'ai fait dans la voiture avant, mais.
D'accord. Mais en tout cas, il y a un mois. Il y a un mois, tout le monde l'aurait fait.
Il y a eu de l'Asperga,
voilà. Ça. Donc, ça veut dire que ici, l'opération qui est en train de se passer, c'est comment un peuple avec Mémé Hélène, Tata Ginette et Pépé Maurice, ouais, on va sortir d'Égypte.
c'est pas que Moïse qui va sortir d'Égypte. C'est Tata Ginette, oui, mémé Hélène et tonton Maurice. Donc c'est ça, tout le monde va sortir d'Égypte. Et ça se fait à l'intérieur de la réalité de ce monde, dans quelque chose qui dépasse la réalité du monde.
En une fois, parce que c'est pas pour répondre fois. À Haïs, c'est pas l'image du chevreuil, parce que le passage dans Chéra Chérim,
c'est
Domédodil Xvi. Donc le chevreuil, le Rav nous a mimé ça d'une manière magnifique. Le chevreuil, tu vois plus. Et la délivrance, ça va être comme ça. C'est en plusieurs étapes. Moshé, il est venu, il est reparti. Voilà.
Regardez, chers amis, pour visualiser la chose. Même si je suis dubitatif à 100% par rapport à ce que je vais dire. Lorsque, après la Seconde Guerre mondiale, le je ne sais pas combien du mois de mai, bidule truc, les Nations Unies ont donné la permission qu'il y ait un État juif au Moyen-Orient.
Le 29 novembre 1947. Le plan de partage.
D'accord. Non, l'indépendance d'État d'Israël.
Alors, l'indépendance, c'est le 14 mai. Non, mais le vote, c'était le 29 novembre 1947.
Hein. Alors, certains ont dit que bien que ça soit dans l'ordre de la nature, c'est des choses, il n'y a pas eu des miracles avec des trucs intersidérales et quantiques ou je ne sais pas quoi. Oui, il y a eu des quantiques peut-être. Mais. Mais il y en a qui ont dit c'est Atralta des Géoula.
C'est vous les des nations.
Voilà. Je me prononce pas par rapport à ça. Je sais seulement que les maîtres chez qui moi j'ai appris ne considèrent pas que c'est Atralta des Géoula. Mais certains ont considéré, en se basant sur les dires du Maharal, que ça c'est l'école de Rav Kook et son fils, parce que Rav Avraham Yitzhak Kook est décédé en 1933, mais son fils Tzvi Yehuda et ceux qui allaient avec lui, David Cohen, etc., ont considéré que quelque part il y a un début d'une Géoula. Maintenant, je ne me prononce pas par rapport à ça, mais c'est pour visualiser, si vous voulez, que comment peut-il y avoir une Géoula à l'intérieur d'un monde matériel. C'est ça le sujet.
Puisque c'est une rupture. Voilà. Comment la rupture peut se faire d'un exit.
Ouais. Voilà.
Charles Grandstein, il dit le moment lui-même de la sortie d'Égypte, on ne nous dit rien là-dessus. Le fait que 600 000 personnes, Tata Ginette et Mémé Hélène ou Messaouda, ils sont tous sortis d'une condition à une autre, on ne nous dit rien. On sait ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Mais le moment lui-même, c'est vrai, on ne l'imagine même pas. Chaque fois, excusez-moi, c'est anecdotique, mais juste pour… Non, c'est après la sortie d'Égypte. On parle du moment où ils sont sortis d'Égypte. C'est juste après. Mais chaque fois qu'on part en sortie avec les enfants, j'ai cette question, tu sais, le temps qu'ils se préparent et les chaussures, le sac à trucs. Comment ils ont fait tout un peuple pour se mettre en mouvement? On n'imagine même pas. C'est inimaginable. Einstein, il dit d'ailleurs, il n'y a rien dans la Torah là-dessus. On est dit avant et après. Mais cet instant-là, tac, on sort, on ne sait pas comment ça s'est passé. Avant le Corban Pessah,
on a la préparation. On dit, tu vois, par exemple, on dit, Yeshua Tachem. Ça, c'est le Maharal le développe longuement dans la suite. La délivrance de Dieu, c'est comme un clin d'œil. C'est ce que dit Emmanuel. C'est un moment T qui est peut-être tellement indicible que la Torah ne le développe pas.
Indescriptible. Pourquoi c'est vrai que c'est une maturité qu'on a atteinte? Une fois qu'on a atteint cette maturité, c'est normal.
Il n'y a rien de normal.
Tu te rends même pas compte.
Non.
Tu as atteint la maturité
Regarde
la tour de Fisbodor.
Non. Là,
tu commences à découvrir.
Tout le Seder de Pessah, on l'a étudié, je ne sais pas si c'est avec vous, je ne sais pas, avant Pessah, moi j'ai beaucoup étudié sur la Haggadah. Qui est dans la fin au Tachem,
on dit au début, mais Trila, Ovde, Koravi, Mayou, Avotenou, nos pères étaient idolâtres, ou nos pères étaient esclaves. Pourquoi il faut dire ça? Matrinim Begnout, ou Mesaim Meshvar, pour bien se rendre compte que la délivrance est incroyable. Nous, on était partis pour être esclaves. Nous, on était partis pour être des idolâtres. Et c'est Akadosh Baruch qui intervient, nous sort à la liberté. Mais ça, je reprends ce que tu dis, Emmanuel, c'est magnifique, c'est indicible. Même, c'est très, très intéressant ce que tu dis, la Torah même n'a même pas des mots pour le dire. Par contre, les prémices de ça sont structurées. Alors moi, je dirais pourquoi. Parce que c'est dans la réalité de ce monde.
Alors là, je comprends mieux les cours au moment du confinement. C'est vrai, il y avait un côté indicible, ce silence. Ouais, c'était impossible. J'ai pas dit que c'était bien ou pas bien, mais en tout cas, on savait pas dire ce que c'était. On est où là? Il y avait rien. La rue. Ouais. Les oiseaux. Chez Rémi, les petits oiseaux pendant les chinois sur Disney. Il y avait les petits oiseaux pendant le chinois. Il y avait les zooms, il y avait Rémi chez lui. C'est très agréable. T'as entendu les petits oiseaux là?
Les oiseaux ici, c'était pas
incroyable. Mais Non, mais d'accord, j'ai pas dit que c'était pas paradis. Et puis t'entendais chaque jour quelqu'un de nouveau qui mourait. Dieu préserve, c'était terrible. Attends, chaque fois que je me connectais à mon téléphone, je me demandais qui allait être soit Nictar, soit dans un état critique. Voilà, donc c'était très spécial. Mais effectivement, il y a un côté, on ne peut pas dire. Par contre, on peut dire ce qu'il y a eu avant, la mondialisation, les échanges, la Chine, le transport aérien, comment ça s'est propagé. Avant, tu peux dire. Après, tu peux dire. Le 4 mètres carrés qui vient à mettre latéral.
On
ne comprend pas votre conversation en fait sur la providence, sur l'intervention divine sur pendant le Covid-19. On n'arrive pas à comprendre.
Non, ce qu'on disait juste, c'est que la
Géoula... Ouais, il y avait une Géoula pendant le Covid. Mais qu'est-ce que t'en sais?
Non, j'ai pas dit que c'était la Géoula. Non, t'as pas compris.
C'est pas
devenu à ce point-là. Non, ce qu'on disait juste, c'est... ce que le Rav a dit, c'est la Géoula, c'est un processus très spécial parce que c'est une rupture, mais qui vient de ce monde-ci.
D'accord. Là,
donc, à l'intérieur de ce monde.
Alors, avec le Covid.
Et donc, il y a les différentes étapes où Hachem va d'abord nous libérer du Rinoui, de la persécution, et après du Shabout, du fait d'être esclave, et après de la Guéroute, du fait d'être étranger. Donc, il va développer ça le marin. Et moi, je disais juste, voilà, ce côté indicible. Parce que, donc,
le moment tel la Géoula.
Il est indicible. On ne comprend pas bien ce qui se passe. On a juste dit que, voilà, l'expérience qu'on a vécue, là, toute l'humanité, c'était un truc qu'on ne comprenait pas bien ce qui se passait.
Oui, c'est ce qu'on appelle la diachronie, c'est ça?
On n'a aucun élément qui nous permette de dire que c'est la Géoula. On a fait, ce que je veux juste dire.
Il y avait un sentiment.
Il y a une expérience d'un truc spécial.
Un sentiment, moi je l'ai constaté. Parce qu'au cours, par exemple, il y a des cours, il y avait 50 personnes. Ça veut dire, les gens venaient avec une soif de quelque chose. Il y avait un éveil.
C'est un truc incroyable.
Ils pensaient qu'ils allaient mourir, c'est tout.
Non, pas seulement. Sans parler de tragique, je pense que ça fait un siècle que... Attends, je ne veux pas faire de la philo, là. On va en se mettre au maral. Mais ça fait un siècle que l'humanité, elle était à fond, à toute vitesse. C'était unique. Il y a eu une pause. Tu sais, comme quand dans un DVD, tu fais pause. Mais pour aller chercher une bière. Il y a eu pause pendant 2 mois, c'est un truc unique, voilà, c'est tout. On n'a pas dit que c'est la Géoula ou que, je ne sais pas, moi je ne suis pas Bratislava encore pour dire.
Mais moi je ne suis pas ça, ça veut dire. Moi j'ai eu ce sentiment d'un éveil spirituel.
Qui est lié à une pause, au fait qu'on fait pause.
Il y a eu un éveil spirituel qui n'était pas de l'ordre de la nature. Que les Champs-Élysées, il n'y a pas de voiture qui roule, qu'il n'y a personne dans les rues.
L'aéroport d'Orly fermé.
Dans une ville comme Paris, que les Jeux Olympiques sont annulés. Jeux Olympiques annulés. C'est un truc invraisemblable. Il n'y a pas de mots.
Il n'y a plus qu'à Hyper Cacher qu'il y avait du monde, quoi.
Ok. Allez, on va. Mais ta remarque est importante, très très importante, Raïm. On va continuer. On va commencer.
C'est bien, ça nous tire dans le haut. Non, mais c'est vrai.
Non, mais celle-là, elle est aussi pour moi.
C'est un cadeau.
C'est la cité. On y va. Alors, que va Idbaer Zelemala, Gamken, Beparacha, Birnaptan, Kacher, Baligol, Otam, quand il vient les délivrer, Itril, Beacharon, Min, Aïnoui, il commence par la souffrance. Donc, c'est le pire. Il commence par le pire, qui est le Inouï, Shua Kaché, qui est le plus dur. Mimeno, Otsiam, Techila, c'est ça, je vais les sortir, Mitachat, Sivlot, Sivlot, c'est la difficulté de subir, de ce qu'on subit. Zéchama, Votseti, Etre, Mitarat, Sivlot, Mitzrayim, je vous sortirai dessous le Sivlot d'Égypte. Chez Zénémar, Al-Sevel. Qu'est-ce que c'est, Sevel? C'est quelque chose qui sort de la force de l'homme. L'homme n'a pas la force de supporter. Baraka Rama, Vitzelti Etrem, Avodatam, ensuite je vous sauverai de leur labeur. Shavilu Mestam Avoda Itzilotam. C'est-à-dire simplement d'être serviteur, je vous servirai. Baraka Neged Kiger Yezaraka, après, étranger sera votre descendance, il a dit Galti Eltrem, je vous délivrerai. Shelo Tiyu Pershutachim, parce que la Geoula, ça c'est un thème central dans le Gvorot Hashem, la Geoula est le fait d'être autonome. Hein, on a déjà vu moult fois, la Matzah, c'est, on dit l'hégémonie, parce que le pauvre, il n'a que lui-même, donc il est autonome, il n'est pas dépendant d'autres. Un riche, il est dépendant de ses investissements, il est dépendant de son compte en banque, etc. Mais le pauvre, bien que la pauvreté soit une situation difficile, mais le pauvre, il n'a que lui pour se définir. Donc ça, c'est la définition de la Géoula dans la thèse du Maharal, c'est le fait d'être autonome. En le fait d'être étranger et quelque part, tu n'es pas esclave, mais tu es à la merci. L'étranger, il doit avoir sa green card, il doit, il doit renouveler sa carte de séjour. Voilà. Donc, quelque part, il est dépendant des autres.
Le ménage ukrainien, elle est très à cheval.
Voilà. Baraka Neged qui guerrier Zaraka Margalti Etrem chez l'Otiyu Birshut Achim Klal. C'est ça la Geoula. Donc, ça, c'est un point central. La Geoula est le fait d'être autonome. Shadaïn, Afalgav, chez Otsi Otam Birshut Achim, combien même les a-t-il sortis de la domination des autres? Vayu Birshut Atzmam. Et qu'ils sont autonomes. Tsririm ol yotam nirnesi birshut akadosh borou. Mais encore, après ces trois catégories, il faut qu'ils rentrent dans la domaine de Dieu. Velo yu kemo shear umot. Ils ne soient pas comme les autres, c'est-à-dire que ça ne soit pas une libération nationale, tu vois. Donc s'il n'y avait que les trois premières dimensions, on pourrait dire que c'est la dimension d'une libération nationale. On trouve notre indépendance. C'est ça la quatrième catégorie. Bezeu Shama, la quartier Etrem, Neneam. Je vous prendrai comme peuple. Donc là, c'est extrêmement puissant. Extrêmement puissant cette lecture. Que bien que après la troisième catégorie, donc. Gal Tietrem, je vous délivrerai. C'est quoi la délivrance, la Géoula? C'est être autonome. Mais ça, être autonome, quelque part, n'a rien de spécial.
c'est une libération nationale. C'est la quartier très aimable, je vous prendrai comme peuple. Donc là, c'est la spécificité du peuple d'Israël. C'est Ushama, mais la quartier est très aimable, l'âme, je vous prendrai comme peuple. Veot Pirouche, Elou, Dadet, Varim, Nemrim, Kan. Encore une autre explication de ces quatre choses. Alors, donc là, c'est la première explication. Est extrêmement précise. Je viens tout de suite.
C'est un bon vote pour le CDR, ça.
Oui, ça, c'est magnifique.
Je retiens, juste pour le CDR, c'est pas mal. Pas trop difficile. Non, c'est vrai, c'est sympathique. Non, parce que dans le CDR, on redit Brit Benabetarim. On dit « Giger Yezaha Beret Slovaim Varabadou Berinu Otam » etc. Donc, tu peux faire le parallèle avec les quatre vers. C'est bien. Je retiens. Ouais, vous l'aurez dans vos emails. Hein. Oui, Abraham, il m'a demandé le résumé.
Merci Abraham, quelque part aussi. Merci.
Par contre, l'espace-temps, là, avec le Gewurz, il s'allonge.
Il n'a pas l'audio, Abraham, non?
Je crois qu'il n'a pas le micro.
Il n'a pas le micro. Ouais. Ouais.
Ah oui, des fois, oui. Mais moi, j'ai un peu ce qui dit, que Dieu, il veut que la libération obéisse à un plan précis. C'est pour ça, parce que je fais ça en fromage avec mes filles. C'est pour ça qu'il y avait les deep play avec des trucs très précis. Demain, ça va s'arrêter. Pour montrer que ce n'est pas juste des forces de la nature qui se déchaînent, mais qu'il y a une volonté supérieure.
Au contraire, si tu veux montrer qu'il y a une volonté supérieure, tu veux une bonne place dans la.
Non, justement. Ça part. Non, pas tout à fait.
Tu mets un corona déjà, comme tu as dit, les gens, ils ont commencé à s'envoler un peu.
D'accord, mais le fait d'avoir 10 fois, avec à chaque fois, à chaque fois un truc différent, c'est encore plus.
À partir du moment où ça suit un processus, une procédure,
alors c'est un amalgame, non, mais c'est un grand, c'est un tel Shérav Forman. Les Égyptiens, ils croyaient dans les forces de la nature, mais ils considéraient que chaque force de la nature, c'était un dieu. Le chidouche, c'est de voir que c'est une seule force qui est capable de tout diriger sur un plan précis, tu vois. C'est un grand thème dans son livre, là, l'exode que... Hein, t'as aimé, hein. Ah, c'est... Dans ces civilisations-là, qui est de la grêle, un grêle terrible, grenouille absolument phénoménale. Bon, c'est le dieu des grenouilles qui est intervenu, c'est le dieu de la grêle. Mais par contre, ça se succède sur un plan précis. Alors là, tu peux dire, là, il se passe quelque chose. Ça, c'était une parenthèse, hein, le temps.
Okay. Alors, on continue. Donc, première explication qui est extrêmement précise dans les versets, c'est qu'il y a eu trois étapes dans l'asservissement. Premièrement, le fait d'être étranger dans une autre civilisation. Deuxième chose, d'être esclave. Et troisième chose, d'être persécuté. Alors là, je vous sortirai sous les sivlotes. C'est quoi les sivlotes? C'est avoir un fardeau dont on n'a pas la force de supporter. C'est ça, sivlot. Quelque chose qu'on ne peut pas sauver, c'est supporter, insupportable. Première étape. Deuxième étape. Oui. Je vous sortirai de leur esclavage. De l'esclavage. Troisième étape, Gaalti Etrem. C'est soit Gaalti Etrem, bien qu'il n'y ait pas l'esclavage, mais on est encore soumis, on est encore étranger. Donc, l'étranger est à la merci des gens du pays. La Géoula et l'autonomie. Mais ici, le Chidouche, l'innovation, c'est qu'il y a une quatrième étape. C'est que s'il n'y avait pas la quatrième étape, ce serait une délivrance nationale. Là, on devient sous le domaine d'Akadosh Baruch Hu, qui nous donne notre existence, notre identité. Voilà, sa première explication. Autre explication de ces quatre choses. Le fils Shayu Israël ben Mitzrayim, ben Raou Sheyu Meshua Badim ben Mitzrayim. Sharei loya el Israël shum yeshiva meyuchedet. Je reprends. Donc on passe à la page Kufyutet. Olpirush. Le
fils d'Israël de Mitzrayim, et tandis qu'Israël était en Égypte, Raoul Sheyou Meshubadim, c'était légitime qu'il soit esclave. Pourquoi? Charé Loaya El Israël Shub Yeshiba Miyuchedet, il n'avait pas une terre spécifique. Chez Loaya Laem Eretz Miyuchedet Kemo Sheyesh le Kol Uma Ve Uma, Vayou Noladim Beres Lolaem. Donc, c'était des étrangers qui n'avaient pas de terre. D'avoir Raoui ou Sheyou Meshubadim Leibsraim. Donc, c'est légitime qu'ils soient esclaves. Keilou Shaya Sham Avdout Al Israël, Betrilat Lidatam, Kemo Aïved Shou Yanid Bet Adonav. Car Israël, Shayandou Beretz Mitzraim, Ayou Raouim Liyot Meshubadim, Veraoui Liyot Massa Mitzraim Aleb. Étant donné qu'Israël, les Hébreux, sont nés dans une terre qui n'est pas la leur, le fait d'être nés dans une terre qui n'est pas la leur, automatiquement ils sont soumis à cette terre, ils sont soumis à ce pays, et c'est légitime qu'ils soient esclaves. Et d'avoir zé metzad Israël be'atzmam, shayu kemo yelid ba'it Mitzrayim, c'est du fait d'Israël, comme on voit yelid ba'it, un esclave qui est né dans la maison de quelqu'un. Kenegedze ama botseti etrem mitarat sivlot mitzrayim. Par rapport à ça, il dit, je vous ai sorti de sous le poids de l'Égypte. Ratsalomar, massa shaya moshe aleem, le fardeau qui était sur eux.
Ça veut dire que tant qu'on n'est pas en Israël, on est sous le joug de la terre dans laquelle on vit. Donc en France, par exemple.
Oui, c'est parfait ce que tu dis.
Mental, oui.
Voilà, ouais. C'est ouais, parfait. Ouais. C'est un point, ce Shabbat, mon fils Hélène m'a demandé finalement quelle est la spécificité de la terre d'Israël. Donc, les cornichons
et le hareng.
Voilà, et le hareng. Alors, on a eu une grande conversation et évidemment, c'est... La fin de la conversation, c'est mon épouse qui dit « Excuse-moi, mais qu'est-ce qu'on fait ici ?» Voilà. Alors,
la terre d'Israël, elle n'est pas soumise à un sabre.
Voilà, Chazal. Voilà. Très bien.
Elle je me reprends directement. Elle n'est pas soumise à un principe, à une force donnée.
Alors,
il faut qu'elle reprenne les vols, hein, pour…
On va pas limiter la conversation à un côté anecdotique, mais le point, c'est que nous, on est un peuple qui se balade de pays en pays. Prenons un exemple. Tu as un juif marocain. Mais on n'a rien dit en disant que c'est un juif marocain. En disant que c'est un juif marocain, on n'a strictement rien dit. Non, on n'a rien dit.
Souvent, s'il est à Montréal ou à Netivot, il n'a pas la même mentalité, c'est ça?
Regarde, c'est pas à toi de parler.
Ça veut dire,
regardez, le paradoxe invraisemblable, mais incommensurable, c'est que tu vas dire, ah, lui c'est un Fassi et lui c'est un Meknassi. Mais comment? Mais Hachem Irachem, mais c'est un truc, c'est le Titanic, il a sombré, mais ça n'a pas sombré. Mais tu ne peux pas comprendre un truc comme ça. C'est invraisemblable.
C'est rivalité entre villes qui avait quelques dizaines de kilomètres d'écart.
Non, mais par exemple, je ne sais pas. Moi, mes parents, c'est des juifs polacs. Bon, je suis né en France, d'accord. C'est un juif français. OK. Et quelque part, c'est indécrottable. Je suis un juif polonais. Indécrottable. Et qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que c'est que cette connerie?
Ma femme, elle me dit les. Bon, voilà. Elle enseigne à Betrana.
Elle, c'est l'Oranaise, non?
Ouais, moi, je suis moitié.
Non, les Oranais, ils ont le passe d'amigo.
Dès que deux gèrent bien sur eux, dès que deux parents d'élèves gèrent bien sur eux, ils ont l'air tout bien sur eux, ils se mettent à parler en arabe comme ça. Comme s'ils étaient. Elle me dit, c'est phénoménal. On dirait qu'ils se transforment en se rencontrant. ils se mettent à
pendant plusieurs années, j'ai étudié, j'ai enseigné, on habitait à Créteil. Il y avait un jeune couple à côté de chez nous. Lui, c'est un type, un psychiatre, tu vois, qui a fait tout le cursus. Psychiatre, ouais, tu l'as pas dans une pochette surprise, le diplôme, hein, tu vois, c'est tout, 10 ans, bac plus 10, quoi. OK. Et la première fois que je suis allé chez lui, je rentre chez lui, le mec en jet là-bas et en babouette. C'était un mec nazi, j'ai dit, c'est lui, Luc Nassi, babouette. C'est halluciné, mais c'est merveille, quoi, de mec. Non, mais chez lui, pas dans son cabinet. Non, mais c'est merveille. Un mec tout jeune, quoi. Il venait de terminer son diplôme, tu vois. Mais Mekhnassi toujours.
Mais donc, c'est parce que la terre, quoi. C'est la terre de ses ancêtres qui a son incidence dans la terre.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, on est dans un pays, c'est indécrottable. Tu vois, par exemple, et Chaïm, tu vas pas me contredire. Un Strasbourgeois, t'es 3 mois à Strasbourg. Ça a été Strasbourg. Non, 3 mois, pas 2, pas besoin de plus. Tu as habité 3 mois à Strasbourg, on dirait que tu as des ondes.
Parce que moi, ce que ça m'a évoqué quand il a dit Yéli, c'est que je me suis dit, un rabbin américain avec son Shtreimel, tout ce qu'on veut de Brooklyn, s'il est né à Brooklyn, c'est pas la même chose que ceux qui ont connu la Pologne ou la Hongrie. C'est dans ce sens-là que je l'entendais. Je disais pas négativement ou positivement, mais juste, on a des caractéristiques propres à l'endroit d'où on est né.
C'est impressionnant. Ça, c'est un truc. En vérité, j'ai très peu lu sur ce sujet. C'est un truc qui me. C'est...
Bah, j'y crois.
Marocain.
Vous connaissez les Mekhnassi, les Djerbiens, etc. Mais bon, mais chez nous, par exemple, les Polonais, ça, nous, on est des lodges. On est de lodge. Ça veut dire, c'est un
c'est pas une mentalité spéciale.
Bien, c'est un truc. C'est mon père, c'est le lodger. Il est né à lodge. C'est le. Mais qu'est-ce qu'on a à faire de ces bêtises? C'est incommensurable. On en a mort. Non, c'est vrai. C'est quand même. Il y a un esclavage.
Bon, alors ça va bien avec l'enseignement qui dit que tant que le dernier des enfants de Yaakov était encore vivant,
il n'y avait pas d'esclavage.
Puisqu'il venait des Redskins.
Il y avait encore cette
tradition.
Alors, ouais. On reprend. Sharil Noaya, El Israël, Shum Yeshiva, Mukhedet Israël n'avait pas de lieu de vie spécial. Chez Noaya Laem, Eretz Mukhedet, il n'avait pas une terre. Comme chaque nation, Bayou nous l'a dit, mais reste l'Olam, ils étaient nés dans un pays qui n'est pas le leur, mais d'avoir Raoui ou chez You, Meshubadim, les Israël. Donc automatiquement, ils sont soumis. Kelou, Shaya, Shem, Avdout, Al Israël, Betriladi, Datam. C'est comme s'il y avait un statut d'esclavage sur Israël par leur naissance, Kemo, Aeved, Shouyalid, Baït, Adonav, comme l'esclave qui est né chez son maître. Il est né chez son maître, il est soumis à son maître.
C'est l'aliénation.
Aliénation.
Bien qu'il n'y ait pas encore les fouets, les trucs, ils sont très bien, ils sont bien installés, voilà. Tranquilles, mais le simple fait d'être né là-bas.
La carte gold.
C'est une aliénation envers le pays où ils
sont. Car Israël, chez Noldou Beretz Mitzrayim, Israël qui sont nés en Égypte, Ayou Rohim Yod Meshubadim. Ça leur revenait d'être esclaves. Raoui Laem, Massa, Mitzrayim. Finalement, quelque part, le fardeau de l'Égypte s'impose à eux. Mais Davarze, Metzad, Israël, Beasma, Shayou, Kemo, Yelid, Bet, Mitzrayim. Le fait d'être né en Égypte,
y a le fardeau léger. Que les Getzé Amar, au Tseti Etrem et Tarat Sivlot Mitzrayim. Par rapport à ça, le verset dit, je vous ferai sortir de sous le fardeau d'Égypte. Rat Saloma, Massa Shaya Moutal Alehem, le fardeau qui est sur eux. Donc là, ce n'est pas le c'est tout à fait une autre explication, ça, un autre aspect. Veodosa Falze se rajoute là-dessus. Shayu Baim Amitzrim le Shabdam Bekoar. Maintenant, deuxième catégorie, que l'Égypte les a servis par force. Vos médecins mitzraïm, shayu rotsim les shabdam bekoar. Donc là, c'est du fait du côté des Égyptiens qui les a servis de fait. Kenegedze, ama itzati etrem. Je vous sauverai. Que moi, Adam, sheba echad, ala beyad chazaka, uba acher, vesilo mimeno. Comme quelqu'un qui le prend par agression, il le prend avec force et l'autre vient pour le sauver. Je vous sortirai dessous la main des Égyptiens. Gal ti etrem, je vous délivrerai. Ratsalomar, afalgar, sheloayou meshubadim, enam bene chorim la son mashirtsu. Sare e berchut acherim, alzama gal ti etrem. Donc là, dans la deuxième explication, je ressens que ce n'est pas l'aspect de l'asservissement, des persécutions, mais c'est le fait d'être de fait dans le domaine d'une autre civilisation fait qu'ils ont un fardeau, ils ont une perte d'autonomie qui va faire qu'après, il y a la possibilité à cette nation de les asservir, de faire une pression sur eux et de les rendre esclaves. Troisième catégorie, je vous délivrerai. Afalgal, Sheloyum Shubadim, quand bien même ne sont-ils pas esclaves, ils ne sont pas autonomes, faire ce qu'ils voudront. Parce qu'ils ne sont pas dans leur disponibilité à eux. Zama Galti est très. Vadaïm, Afalgal, Shenigalou, mais quand bien même trouveraient-ils leur autonomie, Elaem Amala Liotam Leam Hashem, ils ne sont encore pas le peuple de Dieu. Fikarama Vela la karti etrem li leam, je vous prendrai comme peuple. Ou le Kaman et Rachnu Yoter Bazé Veshal Akol me voir, je vais développer ça plus. Voilà. Donc ici, la première explication, l'explication qui rentre très, très bien dans les mots, c'est les quatre étapes de l'asservissement. Mais maintenant, c'est un autre aspect. Le fait d'être né en Égypte, en cela, on reçoit le fardeau et l'asservissement, c'est la suite, vient naturellement. C'est tout à fait une autre explication. Comment ?
Finalement, tout ça, le but, c'est pour devenir un peuple. Mais un peuple, c'est une soumission aussi. Et Eved Hachem, on utilise ce terme de Eved. Aliéné à quelque chose. Alors pour nous, on parle de liberté, parce qu'on a l'impression que c'est une liberté, alors qu'en fait, juste on nous délivre d'un endroit pour nous soumettre à un autre endroit. C'est pas une liberté, parce que c'est moins physique.
Bon, ça, c'est une grande question. C'est une question éternelle. Que je vous ai fait sortir de l'esclavage d'Égypte pour que vous soyez mes esclaves. Hein?
Qu'est-ce qu'on a gagné? C'est ça ce qu'il dit.
Une seconde. C'est une très grande question, entre parenthèses.
J'ai travaillé
35 ans sur cette question. Ouais. Et je vais synthétiser à la fin de mon premier livre. Je te donne la référence. Page 280. Là ?
Oui, je l'ai.
Ouais, page 280. Tu vas voir la note.
Quand tu poseras la question.
Wow. Peut-être écrit pour Raïs.
Je suis désolé, ça fait
vieux prof, tu sais, oui, dans ma thèse, tu sais, dans ma thèse, en 1976,
à Breslau,
à Breslau, tu sais,
troisième tome. Avec Heidegger.
Troisième tome, j'ai traité ta question. Voilà. Alors, on commence la suite. Hein. Très bien. Alors, on va faire les versets. Donc, reprenons le chapitre Vav.
La généalogie, là.
Et tout d'un coup, il y a la généalogie. On se demande qu'est-ce que ça fait là. Hein. Donc, Dieu a dit à Moshe, va dire cela aux enfants d'Israël. Tu n'as pas, le verset ? Il y a le verset là. Je me...
Oui, il a sauté un peu le marin, mais bon. Okay.
Oui, bon. Il fait des morceaux choisis. Hein.
Ouais, ça s'occupe d'Alette. Mais c'est vrai qu'il y a une interruption dans le récit et on fait la généalogie. Ouais.
Alors, oui, mais on va y aller doucement. On va dire le verset tête d'abord. C'est bon, là, les amis. Qui c'est qui est avec nous, là? Ça va, les amis, là, ceux qui sont sur en vidéo?
Oui, oui, ça va, Benjamin.
Le verset tête. Vaïdaber Moshe ken el bene Israël, velo shamu el Moshe, mikotser ruar ou meavoda kasha. Moïse a rapporté cela aux enfants d'Israël. Ils n'ont pas écouté Moshe par souffle court et trop de travail, travail dur. Ça veut dire qu'ils étaient éreintés, ils n'étaient pas du tout disponibles à cette parole d'Hachem. D'abord, Hachem el Moshe les morts. Hachem dit à Moshe en disant Bo d'Aber el Paro, Meler Mitzraim, et Shalar el Bene Israël, Merzo. Viens, parle à Pharaon, le roi d'Égypte, qui renvoie les enfants d'Israël de sa terre. Entre parenthèses, je me suis toujours interrogé pourquoi le verset dit « Viens, parle à Pharaon » et pas « Va ».
Dieu était auprès de Pharaon.
Voilà. Nous, alors, les amis, là.
Ouais. C'est que Dieu se tient auprès de moi, je
ne sais pas. Ah, on se rapproche de Dieu, on ne s'éloigne pas. Ah non, on ne s'éloigne pas. Non, je ne sais pas.
Comme si Dieu se tenait auprès de Pharaon.
Alors, Rémi, allez, on bosse là. Allez, un petit.
Alors, peut-être un petit que dribble. Le chemin est tracé. Si tu dis viens, ça veut dire que finalement le chemin est tracé. L'air, ça veut dire. Va plus loin.
Va plus loin.
Donc, viens, c'est peut-être.
Ah,
j'ai déjà balisé la mouille.
Ah oui,
comme le phare.
Ah oui, c'est bien ça.
Oui, c'est-à-dire, va, c'est un éloignement. Viens, c'est une proximité.
T'inquiète pas, je t'ai déjà préparé le chemin.
Comme Moshe, c'était préparé. Peut-être que lui, il avait décidé déjà dans sa tête.
Bien joué.
Moi, j'expliquerai. J'expliquerai comme ça. Et je pense avoir vu des commentateurs qui disent ça. Que notre cher Karl Marx ne disait-il pas que la religion c'est l'opium du peuple? Je veux dire, c'est un monde imaginaire, un monde fantasmatique. Or, Pharaon. Il n'y a rien de moins fantasmatique que Pharaon. Pharaon, il est là, si tu n'es pas content, il t'envoie ses CRS, il tape sur la tête.
C'est tangible.
C'est tangible. Donc, de la même manière, Akash Bro, c'est une réalité. Tu peux l'ignorer, tu peux faire comme s'il n'existait pas, faire tout ce que tu veux, mais Akash Bro, c'est le Boré Olam, c'est la réalité du monde. Donc, quelque part,
Et peut-être que ça a à voir avec la question de Chaim tout à l'heure. Pourquoi ça doit passer par un processus et pas quelque chose d'anarchique comme ça? C'est que Akadosh Baruch Hu, c'est la réalité fondamentale. La question que M. Langlois nous a réveillé à cette question, est-ce qu'il y a une réalité, mais nous avons une incertitude sur les instruments pour mesurer cette réalité, ou bien fondamentalement, la réalité est quelque chose qui nous échappe et qu'elle est dans un entre-deux constant. Alors, et c'était magnifique en vérité le petit exposé tout à l'heure, en cela qu'il est possible que toute réalité quelque part échappe et dans un entre-deux constant. Parce que la seule réalité, c'est le Boré Olam. Qu'est-ce que c'est le réel? On va dire le réel, voilà, ça c'est un verre Duralex. Il est Duralex. C'est pas de la Kaamelott. Hein. On achète chez les Isaacs de la. De Duralex. Alors, vous voyez, ça c'est la réalité. Mais si tu la passes au microscope électronique, tu vas voir que finalement c'est que. C'est du rien du tout, c'est de l'air, c'est des atomes, c'est que de l'énergie. Alors, c'est quoi la réalité? Alors, la réalité, nous, la réalité, ça veut dire, il y a quelqu'un, il veut faire ce qu'il veut. Il veut vivre une vie de rigolade. Il est possible qu'à un moment, il va se retrouver en tôle. J'ai pas tué, j'ai pas volé. Vous connaissez la chanson du Galérien?
Oui.
Tu connais?
Je ne peux pas la chanter. Mais
comment? Non, je vous l'enverrai après le cours, chantée par Yves Montand. J'ai voulu vivre tranquille, toi, vivre une vie sympathique. Je me retrouve en galère. Mais ça, c'est la réalité pour nous. C'est une vision de la réalité. Que tu peux faire ce que tu veux, mais à un moment, ça te rattrape. Tu peux détourner, toi, par exemple, Baladur. Attends, c'est un midrash. Attends, mais c'est extraordinaire. Non, mais c'est sublime. C'est...
Le mec, il a l'air hyper propre sur lui, hein, Baladur.
Le Baladur, Balamou, quoi. C'était.
Balkany, tu le vois, c'est pareil.
Ouais. Non, Balkany, tu sais qu'il m'a trouvé.
Mais
non,
Baladur, il avait l'air.
Non, Baladur, propre sur lui, tu vois. Propre sur lui. Alors, et c'est extraordinaire. Ça, le mec, à un moment, il a. Moi, je ne suis pas rentré dans le dossier. Mais à un moment, il a un peu fait du hors-piste. 20 ans après, 25 ans après, on le reprend. On le retrouve. C'est excellent.
Il ne fera rien. On le sait. Il va s'en servir de fusil.
Non, mais d'accord, mais disons, ça sera dans son truc Wikipédia.
Ouais.
Donc, non, mais c'est sublime. Ça veut dire que Pharaon, quelque part, l'idée. On a d'un réel qui nous rattrape, c'est Pharaon. Ouais. Eh bien, Hachem, ça te donne l'idée de quelque chose, une réalité. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire l'imbécile. À un moment, la réalité te rattrape.
Oui, mais ça peut être la réalité de Pharaon et pas d'Hachem. Là. Ouais, Hachem ne peut même pas Pharaon, être là, c'est... même si. Même s'il n'y avait pas HM, imaginons dans un état où il y a l'état de droit, etc. Quand tu dévites, tu es rattrapé, tu vas en prison, etc.
Oui. C'est ça. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il fait la volonté de Dieu. Pharaon, il ne fait pas la volonté de Dieu. Mais l'idée.
Ah, c'est l'idée sous
l'idée d'une réalité. HM, c'est la réalité de toute chose. Comme dit Rambam, il commence le Mishneh Torah
Yesod et Yesodot Vamut Achochmosh, les Dash et Sham Matsu Nishon. La base de toutes les bases est la colonne de la connaissance, de savoir qu'il y a une réalité première. Si vous voulez, c'est quoi le réel? Y a-t-il un réel? On a vu, monsieur physicien, travaille le réel, analyse le réel. C'est extrêmement extraordinaire. Est-ce que ce réel, le débat que M. Langlois nous a rapporté, est-ce que le réel est fixe? Mais pour nous, nous n'avons pas les outils pour le définir, donc nous sommes dans un entre-deux, ou bien fondamentalement, ce réel est un entre-deux qui est en constant balancement. Il est possible que tout est dans un constant balancement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le Boré Olam qui est la réalité suprême. Le réel, c'est Akadosh Baruch Hu. Toute réalité qui n'est pas Akadosh Baruch Hu est quelque part échappe à ce réel. Mais l'idée que nous, on peut avoir d'un réel, l'idée qu'on peut avoir d'un réel, ça veut dire, tu arrives, tu dis à Poutine, alors mec, comment tu vas? Je ne te conseille pas. Je ne te conseille pas. Je ne te conseille pas.
Ça me fait penser, là, à l'instant, on avait vu ça dans le drame du Guggenheim, c'est un débat. Est-ce que Ben H. Machot, c'est un safek? Nous, on ne sait pas déterminer le moment qui sépare le jour de la nuit. Ou est-ce qu'en fait, c'est un safek fondamental? Fondamentalement, Ben H. Machot, c'est un temps de safek. Ouais. On avait vu ça une fois.
Donc, c'est très riche, cette question. Et ce beau El Paro vient chez Paro. Alors, j'ai vu cette explication, les amis. Si vous voulez lire, étudier le livre premier de Kabbalah, il s'appelle Emmanuel Vanish. Le Char et Ora de Rabbi Yosef Gelkatilia. On a déjà parlé? Tu l'as. Non, mais j'avais que tu avais les livres de Rafforman. Alors là, tu
me disais, moi je pense que je suis plus Raoul pour venir au chiot. Attends, mec, il faut de l'astrophysique le matin et de la Kabbalah l'après-midi, tu vois. Alors, pendant toi, tu lis le catalogue, Nathalie, ça veut dire ça, pareil à la naissance. Char et Ora de.
Ok. Alors, Char et Ora de Rabbi Yosef Gelkatilia. Alors. J'ai vu dans ce livre une explication extraordinaire que le tétragramme, on dit Adoshem. Pourquoi on dit Adoshem? Parce que Adon, c'est un maître, un seigneur. Donc la première. Nous, on ne peut pas dire le tétragramme. On n'est pas au niveau spirituel de dire le tétragramme. Le Kohen Gadol peut le dire à Yom Kippour, le tétragramme. Mais nous, on n'est pas à ce niveau de dire le tétragramme. Mais qu'est-ce qu'il y a à notre niveau? C'est-à-dire que Hachem, il est Adon. C'est le maître. Comme en français, ils traduisent le Seigneur. Mais bon, le Seigneur, c'est une connotation un peu machin. Mais Adon, c'est le maître. Ça veut dire que la relation de pouvoir, est la première perception que nous pouvons avoir d'Hachem. Qui a le pouvoir, Frida, finalement?
On se place en...
Donc la relation de pouvoir, c'est pour ça d'ailleurs on dit que si il y a un roi goy qui passe, la mitzvah d'aller le voir. Parce que tu as l'idée. Qu'est-ce que c'est un pouvoir? Même si c'est un idolâtre.
Juste pour se rapprocher de quelque chose d'achat.
D'avoir l'idée qu'il y a quelque chose qui existe.
Je crois qu'il faut que ce soit un roi qui ait le pouvoir de vie ou de mort, c'est ça? Genre Bokassa qui envoie ses opposants au crocodile. Non, mais c'est vrai!
C'est
ça, je crois que c'est juste. Il ne faut pas que ce soit Angela Merkel, il faut que ce soit un dictateur africain démocrate. Non,
c'est.
Que ce soit un dictateur africain bien comme ça qui.
Ou alors Mohamed VI, notre cher.
Mohamed
VI. Attends, il y a un an et demi, j'étais à Casablanca. Il y a un an et demi, j'étais en décembre 2018. J'étais à Casa. Maroc, c'est vraiment le dieu.
Il est aussi, hein. Rafpinto, il fait Miché Béla, Hamouteno, Ramitzhak,
mais
Mohamed VI,
c'est vrai que pour nous, ça paraît un peu superficiel, mais si on approfondit la notion, c'est quoi le réel? Le réel, donc c'est ça. Quand le verset dit « Bon El Paro », c'est qu'il faut, méditer là-dessus. Alors, continuons. « Vaidaber Hachem El Moshe El Emor, Bo Daber El Paro, Meler Mitzrayim, Veshalar El Bede Israël Me'artsu. » Viens, parle à Pharaon, le roi d'Égypte, qu'il envoie les enfants d'Israël de sa vie. « Vaidaber Moshe Lifne Hachem Les Morts, et Moshe, vous voyez, Vaidaber, c'est un langage dur. Moshe a rétorqué à Dieu. En ben Israël lo shamu elai, et er ishmani paro, pani aral se fatay. Il a dit, regarde, les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté. Je suis venu pour leur bien. Ils ne m'ont pas écouté. Comment Pharaon, que je vais déranger dans sa suprématie, pourra-t-il m'écouter? Et de plus, Aniaral se fataim, je ne sais pas parler, je ne sais pas m'exprimer. Alors ça, c'est quelque chose de sublime. Comment Moshe peut rétorquer comme ça?
Alors qu'en plus, la parole est embarrassée. Justement, oui. C'est-à-dire, c'est pas un tribun.
Personne ne l'écoute, il a du mal à parler.
Mais il rétorque à Dieu.
Ça, c'est quelque chose.
Il tue quand même un Égyptien avec un nom divin.
Oui, donc
il a une parole forte.
Parole intérieure, quoi. C'est pas dans l'expression.
Vaidaber Hashem el Moshe bel Aaron. Et savem el ben Israël bel paro meler mitzrayim leotzi el ben Israël meretz mitzrayim. Dieu parla à Moshe et Aaron et les a ordonnés aux enfants d'Israël. Les a ordonnés par rapport aux enfants d'Israël et par rapport à Pharaon le roi d'Égypte pour faire sortir les enfants d'Israël de la terre d'Égypte. Regardez Rashi à Kadosh. Rashi vayet savem. Mais Tsavem, El Ben Israël, les a ordonnés au sujet des enfants d'Israël. Tsiva Alehem, la Nigam Benachad Benisvol Otam. C'est-à-dire, il les a ordonnés par rapport aux enfants d'Israël, il les a ordonnés, c'est-à-dire, il leur a fait incomber le fardeau des enfants d'Israël, de les conduire doucement et de supporter leur fardeau. Et Tsavem, le tzivouille, c'est-à-dire il a fait incomber le fardeau des enfants d'Israël à Moshe et à Aaron. Je reprends Rashi. Siva aleem la nigam benachat, il leur a ordonné de les conduire avec douceur, de ne pas les forcer et de les supporter. Les enfants d'Israël, vous devez les supporter. Et tsavem, le tsavot, ça veut dire c'est faire incomber le fardeau sur. Ainsi que le fardeau par rapport à le roi d'Égypte. Regardez Rashi. Tsiva alam lachlok lo kavod bedivrem. Il aura ordonné de conférer de l'honneur quand il parle la parole.
Alors que c'est le tyran dont on veut les délivrer, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Hein. Ça veut dire que Pharaon, il existe. Il existe. Tu ne dois pas dire freluquer. Il n'y a pas freluquer, Pharaon, c'est Pharaon.
Il
Comment?
Envoyé de Dieu, il pourrait être des fanatiques.
Envoyé de Dieu,
il pourrait se croire tout permis.
Oui, je pourrais bien, tu vois, je sais pas, Ben Laden, il va voir Trump. Il va l'air ça. Ouais, pas du tout, il y a Dieu. God with Toons, Dieu avec moi.
Il transforme le bâton en serpent. Il peut... Non, tu vois, il y aurait une avamina de dire je peux tout faire.
Ils ont envoyé les avions contre les Twin Towers, ils ont pas l'arloque à vol de l'américain. Hein.
Ah, je trouve que c'est un
peu chiant. Ils sont Rolex Cabot, l'américain. Ah,
ouais. Tu fais semblant de respecter.
Ah, je suis en train de dire qu'à
Moshé,
c'est une invitation à l'époque
qu'ils ont répondu à une question de survie et qu'il ne fallait pas respecter. Donc, ça donne un peu de corps. Donc, il faut avoir un peu d'aller faire
mal pour les défendre. Ils doivent vous témoigner.
C'est fou. Instinctivement, on pensait le contraire, justement.
Voilà, qu'il arrive, voilà, si tu fais pas ça, je te casse ton pays.
T'es éclaté à terre. Tu vois,
et regardez maintenant. Et les rochers, bêtes à vos tâmes, et voilà les chefs des familles paternelles. Venez Réhouven, Behor, Israël, Hanor, Ufalou, Hetzron, Bekarmi. Elle est, mais je peux retrouver. Alors là, il y a un bug. Mais on dirait, j'ai lu un livre de critique biblique qui va dire que finalement, la Bible, ce sont des manuscrits qui ont été compilés.
Là, ça n'a rien à voir.
Là, tout d'un coup, je ne sais pas.
Je fais copier-coller, ils ont mis au bon endroit le truc, et maintenant, la généalogie des tribus.
Quel rapport. Et voilà les chefs des familles paternelles. Les fils de Réhouven, le fils d'Israël, Hanor, Falou, Hetzron, Carmi, voilà les familles de Réhouven. Venez Shimon, Yemuel, Yamin, Oad, Yachin, Socha, Shaul, Ben Aknanit. Shaul Ben Aknanit, donc, c'est la fille, le fils de Dina, parce que Shimon a épousé Dina.
Oui, c'est l'histoire avec Yov et peut-être l'enfant de Dinah et Shechem. Je confonds, peut-être j'ai lu ça.
Termine ta phrase, peut-être que je comprends. Que Job est le fils de Shimon.
Non, que c'est sa femme.
Et de Shechem.
Oui, ce serait.
J'ai jamais entendu ça.
Je crois avoir lu. Je vérifierai.
D'accord. Dinah, elle était chez Shechem. Elle a dit, mais je suis très très bien, qu'est-ce que je vais devenir là, j'ai un mari gentil, il fait des cadeaux, manteau de vison, tout va bien. Alors, Shimon lui a juré qu'il va l'épouser. Ce qui est fort, c'est que c'est sa sœur de père et de mère.
Ouais, c'est même pas sa demi-sœur, c'est sa sœur.
Père et de mère, alors ça, j'ai jamais compris ça.
Il a épousé sa sœur.
Ah, peut-être que pour les fils de Noé, parce que peut-être pour les fils de Noé, il n'y avait pas l'interdit de sœur. Comment ?
Au début,
Pour choisir.
Donc il faudrait que je vérifie ça. Je n'ai jamais creusé la question. Mais ça s'impose de dire que pour les fils de Noé, la sœur n'est pas interdite. Alors. Voilà le fils Shimon, Elé, Shemot, Bené, Lévi, les Toldotam, et voilà les noms des fils de Lévi selon leur engendrement, Gershon, Kehat, Merari, Ushene, Chaye, Lévi, Sheva, Ushoshim, Omer, Tchana. En vérité, que pourquoi on nous dit ces générations? Pour nous dire Lévi. Parce que on parle de Moshe et Aaron. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas dit qui étaient les parents de Moshe et Aaron. On va nous dire quels sont les parents de Moshe et d'Aaron. C'est Abraham, fils de Kehat. Alors, tu pourrais dire pourquoi les versets ne vont pas directement à nous dire les fils de Lévi. D'accord ? Alors, et les Shemot ben Lévi, les Toldotam, Gershon, Kehat, Merari, voilà les années de la vie de Lévi, 137 ans. Donc c'est pourquoi on nous dit les années, parce qu'avant,
Réhouven ne nous a pas dit, parce que ce qu'on veut, c'est arriver à Lévi. Bene Gershon, Livni Shimi le Mishperota, Bene Keat, Amram, Itza, Hevron, Uziel, Shene, Chaye Keat, Shelosh, Ushoshim, Umiat, Shana, les années de Keat, 133 ans. Bene Merari, Mahri, Mushi, Ele Mishperota, Lévi, les Toldotam, Vaika, Amram, et Yocheved, Dodato, Lo, Leisha, Amram a pris Yocheved, sa tante, ah, mais la sœur de son père est après le don de la Torah, c'est interdit. Mais là, on est avant le don de la Torah. Vatelédo à Aaron, Moshe, Shnei Rayamab, Sheva, Ushoshim, Mimad Shana, 130 ans, Bene, 137, Bene Itzar, Korar, Vanefeg, Vezichi, Bene Uziel, Michel, Et Safan, Vesitri, Veikar, Aaron, Et Elisheva, Bat, Aminadav, Aaron Nachon Loleisha, Vateledlo et Nadav, et Aviou, et Elazar, et Itamar. Aaron a pris Elisheva, la fille de Aminadav, la sœur Elisheva, c'est la sœur de Nachon. Pourquoi on nous dit que c'est la sœur de Nachon?
Il faut vérifier son père.
Voilà, parce que Nachon, c'était le pote d'Aaron. C'est vrai que c'est un. Bon type. Elle dit, sa sœur, elle doit être bien. Voilà. Vous venez Korar, Asir Velkanav, Yassaf, Ele, Mishpechot, Akachi. Et le fils de Korar, Asir Elkanah, Yassaf, voilà les familles de Korar. Entre parenthèses, ces trois, Asir Elkanav, Yassaf, auront un destin glorieux. Quel est le destin glorieux des fils de Korah?
Korah, Chlom et tout.
Voilà.
Je ne sais pas quel était leur destin.
Quel destin des fils de Korah? Allez, là, les enfants. Oui, la menace à l'Amnésar, mis mort. Cette fois qu'on dit avant.
Voilà.
Oui. Alors, lorsqu'il y a eu donc, la révolte de Korah, toute la famille de Korah allait être détruite. À la dernière seconde, les trois fils que nous mentionnons ici, les trois fils, Asir et Elkana, ont fait Teshuva. La terre s'est effondrée et là où ils étaient, ça ne s'est pas effondré, ils étaient sur un piton. Sur ce piton, ils ont prophétisé. Ce sont tous les mismors, les vnekorah mismors qui sont dans Télim. Ce sont les prophéties qu'ils ont eues à ce moment-là. Et descendant de ces trois-là, de je ne sais pas lequel des trois, le prophète Shmuel sera descendant, je crois que c'est de Elkana, si je ne m'abuse. Velazar ben Aaron, la carlo mibno petuel lo leisha, batele lo et pinchas, et les rochers avot alevim le mishpechota. Mais Lazar, le fils d'Aaron, a épousé des filles de petuel comme femme. Et elle lui a donné Pinchas, voilà les chefs des familles des Lévi, son famille, ou Aaron ou Moshe, Asher, Amar, Hashem, Laem, Otsiou, El Bene Israël, Meren, Mitzrayim, Al, Tzivotam. Ce sont Aaron, donc là, ces généalogies, c'est pour arriver à la famille de Lévi, mais les versets nous disent néanmoins Réhouven et Shimon avant. Donc là, on se pose quand même la question pourquoi. Donc, tous les rishonim vont analyser comment ça se fait. Hein. Alors, « Ema medabrim el paro melea mitzrayim l'otzi et bene Israël mi mitzrayim ou Moshe va'aron » Ce sont ceux qui parlent à Pharaon, le roi d'Égypte, faire sortir l'enfant d'Israël d'Égypte, c'est Moshe Aaron. « Va'i beyom diber Hashem el Moshe beretz mitzrayim » Ce jour-là, Hachem a parlé à Moshe dans la terre d'Égypte. Alors, ensuite, encore ça va être répété, Moshe va dire, je suis incirconcis, comment tu veux que je parle à Pharaon? Donc là, j'avais beaucoup travaillé cette question, que, en vérité, la base dans l'âme Israël, ce sont les lignées, les généalogies, le fait qu'on ait des parents, qu'on ait des grands-parents, que
qu'on soit des familles. C'est ça qui va faire que on a quelque part une personnalité et qu'on peut tenir tête à Dieu. Si quelqu'un, si vous voulez, il n'a pas d'attache, alors sa seule attache, c'est Dieu. Et il est paradoxalement, pour reprendre une thématique qui a été soulevée, c'est pas un esclave de Dieu, c'est un larbin de Dieu. Mais là, le fait qu'ils ne viennent pas de n'importe où, qu'ils ont des parents, qu'ils aient des familles, ces familles ont des mérites, eh bien, cela fait que quelque part, ils ne sont pas effacés par rapport à Dieu. Ils peuvent parler devant Dieu. Et alors, il y a des Rishonim qui disent pourquoi ici, on cite Réhouven et Shimon. Réhouven et Shimon, particulièrement, c'est tout, c'est le seul qu'on cite. C'est que Réhouven et Shimon ont été malmenés par Yaakov. Yaakov, il a évincé Réhouven d'être le premier-né. Parce que quelque part, ça va être Yosef qui aura le droit d'aînesse par deux tribus. Et le fait que Réhouven ne se soit pas révolté et encaissé le coup va faire que là, il aura le mérite d'être nommé en premier. Et Shimon a été aussi éjecté par Shimon et Lévi, éjecté par Yaakov. Yaakov, il ne les a pas bénis parce que ils sont agis de manière, cervelée, quelque part impétueuse. Donc, ils n'ont pas été bénis par Yaakov. Le fait qu'ils ont encaissé la remontrance de leur père va leur donner la force, quelque part, de tenir tête à Dieu.
C'était Réhouven qui était allé avec une de ses belles-mères.
Alors, c'est le sens simple des versets dit ça. La Bulbel Yetsoué a vécu là, mélangé les couches de son père. On dirait qu'il est allé avec Bila. Mais l'explication, c'est pas ça. Ok ? Bien. Alors, regardez, on a vu les versets. Bezrat Hashem, on verra la prochaine fois l'explication du Maharal. Et j'ai fait encore le vieux propre. J'ai écrit un long texte là-dessus. Je vous l'envoie aussi. Je pense que c'est sur le site. C'est, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est sur
les généalogies.
Sur la généalogie et pourquoi le fait que Moshe a dit, a objecté à Hachem, il a dit, oui, comment tu m'envoies à Pharaon, et c'est n'importe quoi. Justement, après, on nous dit sa généalogie, le lien entre les deux. L'actualité de la sortie du Chypre. Ouais, l'actualité de la sortie du Chypre. Ok ? C'est bon, merci les amis. Est-ce qu'il y en a qui ont été.